R22 tout le monde, antenne Kiasma.
Commencer directement, peut-être l'idée en fait de cet échange, c'était de centrer un peu plus le regard sur la question du rapport entre document, documentaire et pratique du document chez Vincent comme chez Jérémy, c'est-à-dire à la fois cette pratique dont on a un petit peu évoqué avec Vincent de collecte, peut-être d'images, de documents, quelle qu'en soit leur nature, leur inscription dans un premier territoire de récit, d'où elles viennent, ce qu'elles racontent dans ce contexte-là, et la question de leur déplacement dans un deuxième territoire qui va être les œuvres, tous les deux, que vous réalisez, Jérémy des films et Vincent des installations et des dispositifs. L'idée étant de s'interroger sur la manière de travailler entre ce moment de collecte, entre ce qui raconte, ce qui déploie, et le moment d'une écriture avec ce document, qu'il soit un document d'archive ou un document plus contemporain, ce qui résiste, ce que ça raconte, ou dans vos pratiques, sur différents volets et exemples, ce que ça met au travail. On voulait aujourd'hui, avec Abralcor, interroger les questions de rapport au territoire, et c'est vrai qu'on va aussi le faire par le prisme du document, pour un peu faire suite à ce que Vincent disait tout à l'heure, c'est-à-dire comment aussi, à travers le document, est déposé quelque chose du territoire, quelque chose d'un récit sous-jacent qui va être remis en circulation ou reconstruit à travers les propositions. Donc le jeu, c'est aussi de poser ce qui était des hamacs dans le premier récit, qui aujourd'hui des espèces de nappes mortuaires, on va dire, des documents et d'échanger, et d'en parler, et de croiser un peu vos regards. Je ne sais pas si Jérémy, Vincent, commence.
Donc, l'idée, c'était de montrer les documents là, donc, bon, entre la disposition de tout le monde et l'écran caché d'absolument tout le monde, on va voir ce qui marche, mais au moins, du coup, on pourra raconter. Et du coup, on va voir comment est-ce que, en disposant des documents là, comment est-ce qu'on arrive un peu à croiser des champs de travail assez différents. Moi, principalement, ce que je vais montrer, c'est quelques éléments qui sont extraits de ce journal, qui est plutôt un livre qu'un journal, parce qu'il n'y a qu'un exemplaire. Il y en a quatre là qui peuvent circuler si des gens veulent les consulter pendant qu'on parle. Et donc, c'est le résultat d'à peu près 2 ans de travail à La Courneuve. Il a été publié il y a 1 an. Et c'est un travail préparatoire, un film qui se tourne déjà un peu, mais qui va se tourner essentiellement là, dans les mois qui viennent, jusqu'à la fin de l'été, à La Courneuve. Et disons que l'envie de départ, c'était un peu d'arriver là-bas et de ranger vraiment la caméra, quoi. C'est-à-dire, le projet, c'est de faire un film, mais pendant presque plus de 2 ans, j'ai absolument pas tourné d'image. Et je voulais pas, en fait, sortir la caméra, mais plutôt faire un travail d'enquête, d'une façon que j'avais pas forcément fait avant, à peu près sur 2 aspects. D'un côté, recueillir des récits oraux d'habitants ou anciens habitants de La Courneuve, et d'un autre côté, aller faire des recherches dans des fonds d'archives. Et le point de départ, le moteur, disons, du projet, provient du film précédent que j'avais fait 5 ans avant à Lyon et qu'on verra tout à l'heure, et d'une petite chose, en fait, qui était quelques phrases que m'avait dit un homme que j'avais rencontré là-bas, un monsieur très âgé, qui était arrivé en France dans les années 50, d'Algérie, et qui, au pied de son immeuble qui allait être démoli, son HLM, m'avait dit « Tiens, c'est vraiment étonnant, j'aurais jamais pensé que ce bâtiment-là disparaîtrait avant moi. » Lui qui avait connu cette partie de la banlieue lyonnaise à un moment où il n'y avait absolument pas ce type d'habitat, et où lui-même vivait dans des cabanes, quoi, dans ce qui était les bidonvilles. Et du coup, c'est un peu sur cette chose-là de l'habitant-constructeur et du rapport comme ça très direct que peut avoir un habitant au long de sa vie avec la transformation d'une ville, mais même en ayant été impliqué dans sa construction, qui m'a un peu intéressé au départ. Et par des hasards successifs, il se trouve que la recherche s'est posée à La Courneuve, parce qu'il y a un collectif d'amis qui travaille là-bas qui s'appelle L'Abominable, de cinéastes. Et donc voilà, pendant 2 ans, en connaissant au départ absolument rien à la ville, avec un ami qui m'aide sur tout le projet, qui s'appelle Yann Chevalier, on est allé comme ça très empiriquement rencontrer des gens et enregistrer des très longues conversations. Et ces conversations, on en a fait très progressivement des récits, donc réécrits, où à peu près chaque mot est, je dirais, exact, mais où le récit est complètement remonté, quoi. Et donc, sans que ce soit préconçu pareil au départ, on a réfléchi au bout d'un an à comment est-ce qu'on pouvait restituer ce travail localement, puisqu'on avait eu une aide de la ville. Et il s'est trouvé qu'on s'est dit que la meilleure solution pour pouvoir à la fois partager les documents qu'on avait trouvés et ces récits, c'était de publier ce journal qui est gratuit et qu'on a pu distribuer à 3000 exemplaires dans la ville, quoi. Vraiment de la main à la main, donc dans l'idée aussi que ce soit un objet un peu actif et qui soit un peu le vecteur de rencontres pour la suite du projet, mais aussi de discussions, parce que l'enjeu principal de tous les témoignages qui sont rassemblés, c'est d'une part de raconter des parcours personnels, familiaux, de gens qui ont démarré leur vie ici en grandissant dans des bidonvilles, dans les années 50, 60, 70, qui ont vu ensuite toute la ville se transformer, puisque La Courneuve, c'était moins de 10 000 habitants au début du siècle, et ça a été multiplié par plus que 10 en 20 ans, notamment autour de la construction des grands ensembles des 4 000. Et à l'autre bout de l'histoire, maintenant, raccorder ça directement au fait qu'aujourd'hui, à nouveau, il y a des bidonvilles, notamment beaucoup en Seine-Saint-Denis, et à l'époque, notamment beaucoup à La Courneuve. Il se trouve qu'aujourd'hui, il n'y en a plus aucun à La Courneuve, parce que comme ailleurs, il y a des politiques d'expulsion assez systématiques, et que ce journal, rassemblant les témoignages d'habitants des bidonvilles d'aujourd'hui et de cette époque-là, était à sa toute petite échelle aussi une tentative de relier de la connaissance, du savoir entre gens qui se parlaient pas tellement, en fait, c'est-à-dire les anciens habitants des bidonvilles et puis ceux qui sont toujours dans ces situations aujourd'hui. Voilà, ça c'est plutôt l'introduction.
Moi j'aurais envie de te poser la question, tu parlais de cette difficulté à faire un film, à un moment donné, ça a pris 2 ans, il n'est pas encore tourné. Pourquoi aussi difficile? En fait, quelle est la difficulté majeure ou quelles sont les difficultés majeures que tu as rencontrées au tournage de ce film?
C'est pas des difficultés majeures, c'est que ce que je peux dire par rapport à ces collectes de récits notamment, c'est que mon envie, en fait, c'est, ça passe aussi par l'écriture, c'est de travailler une parole brute pour en changer quelque part la nature ou la narration dans un va-et-vient entre ce qu'énoncent les gens, ce que moi je peux en réécrire, ce dont on peut parler ensemble. Il y a aussi des possibilités qu'une part d'imaginaire, de fiction se glisse là-dedans aussi. Et l'idée du film, c'est plutôt, en fait, à partir de ce matériau-là, de travailler à quelque part qui n'est ni vraiment du documentaire, ni vraiment de la fiction, en proposant à des groupes d'habitants de rejouer ou de jouer des choses qui sont à la fois leur propre vie et en même temps des rôles, puisque j'y injecte de l'imaginaire, que je leur propose d'y injecter de l'imaginaire, et que ces récits collectés, parfois, sont réappropriés par une autre personne, ou qu'une personne va mélanger un récit qu'il aime, mais qui provient de quelqu'un d'autre, etc. Donc en fait, c'est plus un truc de rapport au temps du travail et à une espèce de sédimentation comme ça, du rapport au document d'une part, et surtout du rapport à la parole, qui fait que les images ne viennent pas tout de suite. Après, je pense que c'est juste aussi un truc très personnel. Comme plein de gens, je pense qu'ils ont des pratiques artistiques, le tempérament, la nature même de ce qu'on est, influe énormément sur la nature du travail. Et dans certaines de ces situations, notamment par exemple en allant très, très régulièrement là, côtoyer des gens qui vivaient dans les bidonvilles, dans un bidonville en particulier à La Courneuve, moi personnellement j'ai besoin d'énormément de temps pour faire des images d'un endroit comme ça. J'ai besoin de passer un peu à un autre type de relation. Et par ailleurs, je trouve, je ne sais pas comment dire, qu'il y a déjà énormément d'images produites. Et que j'ai besoin que le travail, oui, sédimente les choses pour qu'à la fin, il y ait un certain nombre d'images qui soient faites, mais pas forcément dans une logique de tournage documentaire où, en fait, généralement, on accumule énormément de matière pour, à la fin, condenser quelque chose. Et en définitive, le film qu'on va tourner là dans les mois qui viennent, le tournage en tant que masse d'images et organisation, c'est beaucoup plus proche presque d'un tournage de fiction que d'un tournage documentaire au long cours. Mais par contre, ce long cours, il est là dans la pratique d'enquête, de collecte, et je crois vraiment que ça donne une forme, ça donnera une forme spécifique au film en définitive, quoi.
Non, enfin, je te demandais ça parce que donc quand j'étais, j'ai une expérience qui a bloqué en fait dans un processus de travail, quelque chose qu'on n'avait pas envisagé. Je suis parti avec Marion Marion Cross, qui est une artiste sonore plutôt, réalisait un documentaire en Martinique. Et on était partis donc, pour réaliser une pièce sonore et demander en fait à... On avait préparé le voyage longtemps en avance, contacté énormément de personnes, on avait beaucoup de liens sur place, donc on avait un travail qui était déjà prémâché. Et donc demander à des personnes de nous parler de leur territoire et de le décrire, ce territoire, et de leur histoire, en fait. Donc parler d'un territoire par rapport à l'imaginaire qu'on a d'une histoire à partir des différentes diasporas qui vivent en Martinique. Et en fait, les gens... donc au début, on a décidé de ne pas les enregistrer, on avait accumulé beaucoup de documents, de discuter avec eux. Et les gens se livraient, parlaient beaucoup, un contexte social compliqué, difficile, avec des histoires, une réappropriation de l'histoire selon les communautés très différentes. Et à chaque fois qu'on sortait le micro pour les enregistrer, parce qu'en fait, la parole est totalement taboue. C'est-à-dire que sur un territoire aussi réduit, tout se sait. Et en fait, ils n'avaient pas de méfiance à se confier. Il y a un proverbe créole qui dit « l'a dit, l'a fait, l'a dit, l'a pas fait, l'a pas fait, l'a dit, l'a pas dit, l'a fait ». Vous comprenez ? Il l'a dit, il l'a pas fait, il l'a fait, mais il l'a pas dit. Voilà. Et sur en fait le fait de... il y a toujours un œil qui te surveille, et il y a toujours potentiellement dans un microcosme comme ça, une tension sociale qu'il faut tenir et qu'il ne faut pas que ça éclate. Quoi. Et in fine, nous qui voulons faire un documentaire sonore, on a été... dans l'incapacité en fait à enregistrer des voix, et le projet est toujours en route, c'est-à-dire qu'on ne sait toujours pas quelle solution, comment trouver ça. Parce que ce qui nous intéressait, c'était le flux oral, et à un moment donné, une espèce de conte par jeu de Kyrielle où en fait on basculait d'une voix à une autre qui racontait un récit comme ça, et les peu de personnes qui nous ont parlé, et c'est là où c'est beau aussi, c'est qu'il y avait des fois des articulations où ils oubliaient le micro, ils prononçaient quelque chose et ils réalisaient qu'ils l'avaient prononcé. Et voilà, il y a quelque chose, ils essayaient de rattraper le mot, mais ils n'y arrivaient pas. Et c'est là où ça devient intéressant aussi. Des fois, des mots qui, pour nous, n'avaient pas une importance spéciale, et en fait, qui prenaient une importance parce qu'il y avait cette hésitation, ce frein, et qui donnait du sens, et en fait, évidemment, un sens caché quoi, à ce qui avait été dit.
Ouais, bah mais en tout cas, sur ce mode de récit, comme ça, par enchaînement, c'est exactement ça, en fait, qu'on cherche là à mettre en place pour le tournage. Et donc, de fait, là, par contre, il y a énormément de matière à accumuler, mais plus parce qu'en fait, en brassant la vie des uns et des autres, en se mettant à parler de choses qui ne sont pas au cœur du sujet, je tombe, en tout cas, sur des choses qui me parlent, qui sont des récits qui cristallisent quelque chose d'assez... qui projettent tout de suite dans une forme d'imaginaire et qui, en même temps, sont souvent des récits qui sont déjà structurés par les gens eux-mêmes comme des petits récits mythologiques, quoi. Qui, du coup, sont aussi souvent un peu fantasmagoriques, un peu exagérés, qui comportent des parts de mensonges, qui comportent des parts d'inexactitudes, de souvenirs. Et je pense qu'on a pu accéder à beaucoup de choses comme ça parce que, justement, on n'avait pas la caméra. Et en tout cas, je sais que moi, à certains moments, quand j'enregistre la parole des gens en les filmant, d'une part, je me méfie tout de suite parce que un cinéma qui est dans un rapport comme ça à l'oralité filmée me passionne pas forcément toujours. Tout simplement, tous les moments qu'on a passé à enregistrer toutes ces conversations avec juste quelque chose posé sur la table, bah, c'est très simple. Je sais pas, en fait, au bout de 5 minutes avec n'importe qui, le phénomène d'enregistrement est totalement oublié, contrairement à ce que toi tu racontais là. Et que ça permet d'atteindre des zones d'intimité qui, de toute façon, ne seront pas dévoilées, puisqu'elles vont être en partie réécrites, parfois rejouées par d'autres, ne seront pas forcément dévoilées de façon directe vis-à-vis de ces personnes-là et de leur intimité, etc. Donc voilà, c'est un peu un jeu de...
Voilà, justement, je récoche. Tu parlais d'objets, enfin de quelque chose au figuré posé sur la table. Est-ce qu'il y a des éléments qui t'ont permis, à un moment donné, d'articuler des discussions, l'iconographie, des objets, parce qu'on est là aussi pour parler de ça, à un moment donné, des éléments qui ont été des moments charnières, qui ont révélé ou qui ont annoncé, ou qui ont été comme une clé qui a permis d'ouvrir à un moment donné au sein de ce film, en fait, des perspectives que tu n'avais pas imaginées.
Ouais, alors, en partant d'image, il y a un ou deux éléments dont je peux éventuellement parler, c'est-à-dire qu'ils connectent des images à strictement le récit du territoire fait par les habitants et le récit de la mutation de ce territoire et de sa représentation. Et par exemple, au début du journal, il y a une série de cartes postales que j'ai mis au début parce qu'elles sont à la fois les images les plus anciennes de la ville et en même temps parce qu'elles sont le point d'origine de mes premières conversations à partir d'images avec des habitants. Il y a quelque chose d'assez beau aux archives municipales, donc où je suis allé beaucoup chercher des documents et des images. C'est toute une collection de cartes postales du début du siècle. Et donc les premières traces visuelles qu'on a de la Courneuve au moment où notamment l'ère industrielle, etc., arrive. Et en fait, c'est assez étonnant, c'est un cafetier de la ville qui... les usines se construisant, grandissant un peu partout, le nombre d'ouvriers grandissant très vite, a commencé à prendre en photo les devantures des usines, avec parfois quasiment comme juste une idée d'échelle, mais on ne voit pas grand-chose du tout, des petits personnages, des ouvriers. Et en fait, c'est assez étonnant, puisque du coup, le seul témoignage qu'on a visuel dans cette collection, c'est vraiment une collection, c'est les façades de toutes les usines de la ville, avec le nom de l'usine en dessous. Et donc c'est assez vertigineux parce que derrière, il y en a plein d'exemplaires. Voilà, on imagine que du coup, tous ces gens envoyaient des nouvelles à leur famille ailleurs, à l'étranger ou en province, avec une photo de leur lieu de travail, quoi, de eux devant leur lieu de travail. Donc c'est comme ça que premier lot d'images comme ça s'est mis à exister. Et avec certaines de ces images, au début, je me baladais pour retrouver juste des lieux, pour comparer en fait ce qui c'était aujourd'hui et maintenant, à partir des noms des rues où étaient les usines. Et la première fois que j'ai fait ça, un type par hasard m'a tout de suite alpagué en me disant « Ah, mais c'est... je connais très bien. Voilà, j'étais là à cette époque-là. Ces images-là, je les connais. » Et il voulait que je lui en donne une. Donc, je suis allé chez lui. Et il se trouve, c'était un espèce de hasard total et de cadeau que... Moi, le bidonville sur lequel j'enquêtais, il se situe aujourd'hui à l'emplacement du parc départemental de la Courneuve et là où a lieu la fête de l'humanité. Et en fait, ce type... On parle, il me raconte l'histoire de la ville, je reviens plusieurs fois chez lui. Et au bout d'un moment, je dis, mais c'était quoi votre métier ? Lui, en fait, il convoyait dans une immense décharge les ruines de tout ce qui se détruisait comme quartier populaire de Paris, dans cette zone-là de la banlieue. Et donc, il racontait ça comme une espèce de mythe, quoi, une espèce de ville de ruines entière. Il disait, c'est comme Beyrouth, enfin, il disait ça. Bon. De pyramides, quoi, de vestiges de tout ce qui se grignotait dans Paris, qui par ailleurs a provoqué... le fait que des déplacements de populations pauvres à l'extérieur de la ville, donc en banlieue, et notamment dans ces grands ensembles qui se construisaient simultanément. Et donc, lui, par son métier et tout ça, il était vraiment voilà, au cœur de quelque chose comme ça. Et progressivement, comme ça, il y a tout un petit lot d'images qui se sont trouvées avoir comme ça, un point de connexion très fort entre ce qu'elles représentaient, comment elles avaient été produites, et le rapport assez intime que ça reconnectait avec la vie des gens que je faisais parler. Voilà, il y a d'autres exemples de... Ça, c'est des cartes postales de la Sonacotra qui ont été... une amie, Martine Derain, à Marseille, qui m'avait parlé de ça au tout début, qui m'avait dit « va chercher de ce côté-là », qui est en fait toute une série de cartes postales que la Sonacotra a produites comme image, entre guillemets, de propagande au tout début des années 70, qui sont des petites séries photos assez chatoyantes, très mises en scène, très tout le monde est bien apprêté, etc., des foyers, de chaque foyer en fait de travailleurs qui existait en France. Et il se trouve que voilà, il y a eu tout un travail, toute une campagne pour faire ces cartes postales. Sauf qu'en fait, au moment où elles ont été sorties de l'imprimeur, de chez l'imprimeur, c'est le moment où a démarré la grande grève des loyers des foyers de travailleurs. Et ces images-là étaient une espèce de fantasme total par rapport à ce que révélait la parole des habitants au moment de cette lutte. Et donc, ces milliers et milliers d'exemplaires n'ont jamais vu le jour, sont toujours restés dans les caves de la Sonacotra. Et par ailleurs, elles avaient pour fonction d'être des cartes postales. Et donc, là encore, d'envoyer des images des lieux de vie de ces gens à leurs familles dans d'autres pays et d'être un vecteur de nouvelles, quoi. Et elles sont restées voilà, dans ces caves là-bas.
Peut-être pour poursuivre avec l'échange qu'on avait juste avant avec Vincent, c'est que du coup, la question de la carte postale, qui était aussi présente dans ton dispositif et aussi les objets que tu collectes, on montre là un cas de figure assez intéressant de quelque chose qui va relier un régime parfaitement intime, hein, de communication interne à la famille, avec des images justement qui viennent totalement d'un espace pas intime, quoi. C'est-à-dire que là, on est dans un rapport presque un peu paradoxal qu'on trouve aussi dans le film Les Hommes debout, qu'on verra tout à l'heure, de Jérémy, où quelque part, il y a à la fois une assez grande violence et une difficulté de vie, un rapport à un attachement, à une ambiance construite par la communauté de destin, et puis un régime de communication qui passe par-dessus, mais qui va pouvoir entrer dans ce régime familial à travers la carte postale. Là, elle concentre presque à la rigueur une espèce de scène au sens social de ce qui est en train de se jouer, c'est-à-dire à la fois la réalité des conditions de vie, ce qu'on essaye de faire, comment dire, de sauver comme apparence, donc la communication, on va dire, des puissants, des entreprises, des médias, etc., comme on le voit dans le film, et puis le rapport un peu vécu, mais aussi des espèces d'endroits, des zones de contact un peu paradoxales où la carte postale, si elle avait pu aller au bout de son processus, elle aurait été probablement utilisée par les gens qui vivent dans les foyers, y compris dans des conditions qui étaient parfois difficiles. Donc il y a cette espèce de rapport entre l'intime et cette espèce de communication méta qui se touche de manière un petit peu, comment dire, paradoxale et qui rejoue ce que serait justement le récit intime de la carte postale. Là, du coup, il y a aussi une forme d'autorité qui passe à travers elle et à travers des... On peut imaginer une face qui va exprimer ça et un dos qui raconte une toute autre histoire. Donc un espèce de paradoxe dans l'objet lui-même. Je pense qu'il y a aussi ça dans ta recherche, Vincent.
Au niveau des cartes postales, je vais ricocher quelque chose que j'avais présenté au premier acte et que j'ai pas forcément. On avait un peu parlé lors de la visite avec Jocelyn. C'est une collection d'images qui représente toutes des femmes, la plupart du temps dans un contexte de jardin avec chaise. Donc la série, je l'ai intitulée Femmes au jardin avec chaise si possible. C'est quelque chose que j'ai collecté au fur et à mesure dans des images d'archives qui étaient certainement des images qui étaient publiées par. Une famille, des fois c'est des familles bourgeoises, des fois c'est des familles beaucoup plus modestes. Et ce que je trouve toujours extrêmement curieux, c'est qu'il n'y a toujours que cette question, pourquoi une femme devant un jardin ? Il y a quelque chose d'assez... Moi, contrairement, en fait, j'essaie d'élucider un mystère par cette collection, en fait, parce que je me rends compte que sans vouloir faire une collection, au fur et à mesure à fouiner dans les puces, etc., en fait, je trouvais constamment ces images-là. Alors j'en ai trouvé énormément dans les pays de l'Est, et notamment nord-est. Et au fur et à mesure, donc là, c'est le format carte postale, puis j'en ai différents formats, des portraits aussi. Il y a constamment cette image qui revient, que j'organise différemment avec d'autres images pour articuler à un moment donné des tensions. Et ce qui m'intéresse, c'est évidemment quelle représentation on donne de soi par cet outil-là, quoi, à telle époque. Pourquoi debout devant une chaise ou assise quand il y a un groupe, mais souvent debout devant, avec une chaise devant et un jardin. Et ce qui est assez amusant au moment où je collectais ces images, j'ai commencé à en trouver beaucoup chez notamment un brocanteur, je tombais sur cette image-là, homme avec loup au jardin. Et c'est quelque chose qui est assez curieux, en fait, le rapprochement qui se joue entre ces femmes au jardin avec chaise et ces hommes chasseurs, il y a quelque chose, moi, qui me fascine totalement, dont je n'ai pas la réponse, mais qui sont partis de premier jet, de germe à un moment donné pour une pensée qui va se mettre en place et dont je n'ai pas encore... donc c'est un processus en cours encore. Voilà. Et après, qui active par ailleurs d'autres... qui attirait mon attention sur les cartes postales un peu plus que je ne l'avais préalablement. Quoi.
C'est souvent des images de jardins ?
Alors, des fois, c'est dans des jardins. Plus c'est bourgeois et plus c'est dans un intérieur. Parce que je pense que c'est aussi une question à un moment donné d'intérieur, de payer un studio, un photographe, etc. Et donc, au niveau de l'habillement, on sent que plus les personnes sont apprêtées, plus on sent, des moyens, plus on a un décor derrière, clairement un décor. Donc peint, aménagé, etc. Donc évidemment, il y avait une tradition à un moment donné du portrait, mais ce qui me questionne, c'est que c'est systématique, quoi. Le jardin derrière la femme, quoi. L'enfant, il va y avoir d'autres choses, et l'homme également. Il y a des représentations d'hommes, mais en général, c'est le bureau. On le comprend un peu plus facilement. Mais jardin, il y a quelque chose d'assez curieux, parce qu'en plus, ça rejoint certaines mythologies qu'on a. Donc ça réactive des choses qui sont presque d'un inconscient. Qu'est-ce que signifie, à un moment donné, la femme au jardin ? Toutes les images ne sont pas type Madame Bovary. Il y a des images type vraiment prolétaire, quoi, des chaises, femmes, jardin. Elles sont habillées avec presque leur truc de travail, mais un peu apprêtées pour être joliment... mise en valeur, etc. On sent qu'elles sont endimanchées, quoi. Mais tout nous raconte autre chose, en fait, de leur milieu social. Donc, est-ce que c'est une reproduction de quelque chose de bourgeois ? Je ne sais rien. Je reste en ce moment, il y a plein d'ouvertures, et c'est ça qui m'intéresse. C'est qu'à un moment donné, je n'ai pas de réponse à un moment donné à cette représentation, à cette époque donnée. C'est vraiment 1910-1930, au niveau des dates. J'en ai trouvé énormément en Estonie et en Russie. Et c'est là aussi parce qu'il y avait énormément de brocanteurs dans lesquels je pouvais trouver des images vraiment pas chères et qui les vendaient dans des boîtes. Il y avait des... Donc c'est des familles qui décèdent et qui en fait... Donc il y avait des photographies de famille, j'en ai accumulé. C'est là où j'en ai trouvé le plus, quoi. Et après, en parlant, en fait, des amis m'envoient des scans ou alors... Donc j'en ai des beaucoup plus grandes. et j'en ai une, voilà, une certaine quantité maintenant. Mais c'est là-bas que j'en ai trouvé sous ce format-là la plus grande quantité. Quoi. Il y en a certaines, c'est marqué derrière, il y en a certaines, c'est des éditions type carte postale. Quoi. Alors, est-ce que ce sont des studios qui éditaient ce genre de choses? Mais c'est réellement des portraits. Donc, à mon avis, c'était des familles qui avaient moyen de se payer des cartes postales pour pouvoir envoyer les meilleurs vœux ou des choses comme ça. Et d'autres, c'est des photographies, je pense que... Voilà, tu veux rebondir?
Ça, en fait, comme quasiment la majorité de toutes les images qui sont dans le journal et dont une partie seront dans le film, mais je ne sais pas encore lesquelles, c'est des images qui, en fait, à ma connaissance, n'ont quasiment jamais été vues, qui proviennent en grande partie d'un fonds associatif militant qui est le fonds d'ATD Carmonde. C'est aussi ça qui m'a poussé à m'intéresser de près à l'histoire de ce bidonville qui était établi à La Courneuve pendant 20 ans, qui s'appelait La Campa. Milieu des années 50 jusqu'à 72, on l'appelait le bidonville des bidonvilles parce que 72, c'est vraiment le moment où quasiment la plupart des grands bidonvilles de région parisienne sont tous résorbés. Et c'est celui qui est resté le dernier. Et donc, les gens qui n'ont pas eu de relogement suite à la démolition de leur baraque affluaient tous vers cet endroit-là. C'était un endroit très, très, très cosmopolite par rapport à d'autres bidonvilles. On connaît aussi beaucoup plus le bidonville de Nanterre, par exemple, qui était essentiellement un bidonville algérien. Et ce qui est assez beau dans l'histoire de ce bidonville, par rapport à ce qui m'intéresse, c'est-à-dire dans la reconnexion un peu avec le présent, la question des bidonvilles actuels, et donc la question qu'on devrait pas dire Rome, mais les habitants des bidonvilles, c'est que par l'histoire de ce bidonville, j'ai constaté qu'en fait, on pouvait un peu retracer une histoire assez ancienne de la présence d'Amantigane en Seine-Saint-Denis, qui s'appelle le département de la Seine à l'époque, comme tout le pourtour de Paris. Et donc, j'avais mis cette image-là qui clôt le journal, mais qui est plus une ouverture vers le film. Le film s'appelant pour l'instant Atlas, mais avec en fait cette image un peu énigmatique qui est Atlas au début. En fait, le projet s'appelait comme ça parce que une des personnes, donc j'avais recueilli des témoignages à l'époque où je pensais à ce film, mais c'était à Lyon, venait de cette région-là, de l'Atlas. Mais je n'avais pas du tout à l'époque en tête des histoires liées à ce qu'est un atlas, à tout ce que c'est devenu après, une fois que, notamment avec George Zimmerman ou d'autres, il y a des choses qui autour de l'atlas Mnemosyne, qui sont des choses très, je ne sais pas comment dire, quel mot employer, très connues aujourd'hui. Et par ailleurs, moi je pensais plus à l'atlas comme le personnage qui porte le monde sur son dos, quoi. Et donc là, voilà, il y a une espèce de terre comme ça qui...
Alors c'est assez beau parce qu'on voit, vous voyez pas très bien, mais c'est cousu. En fait, il y a des grosses coutures sur cette...
Presque une lune, en fait, une maquette de lune presque. Et c'est assez beau aussi pour ça, parce que ce que les gens décrivaient comme moment d'arrivée dans cette ville, c'était un peu lunaire, parce qu'ils étaient vraiment relégués dans des zones de champs, complètement de partout en chantier, en fait. Et ils travaillaient sur les chantiers. Et il y avait vraiment cette sensation de lunaire, de pionnier, de Far West, des fois, dans ce qu'ils racontent, d'aller installer une baraque, puis deux, puis trois, puis quatre, puis jusqu'à constituer une ville, en fait. Et inversement, par rapport à des choses de la rénovation urbaine, plusieurs fois, des gens m'ont dit, même après juste quelques années de départ de La Courneuve, et puis ils reviennent, je ne sais pas, visiter quelqu'un de la famille, c'est comme si ils étaient revenus sur la Lune, en fait, parce qu'il n'y a plus une seule rue qui se ressemble, il n'y a plus un seul immeuble similaire. Il y a des immeubles, ça rejoint l'histoire de ce vieux monsieur qui disait « je ne pensais pas que ça disparaîtrait avant moi », des immeubles absolument gigantesques de plusieurs milliers de logements qui s'effondrent en quelques secondes et sur des époques très, très courtes en fait.
Tu peux nous parler juste de cet objet? Je suis curieux de revenir dans l'objet. Quoi.
Pour revenir là-dessus, donc c'est une photo, donc de Claudie Thivon, qui est un très grand photographe, mais en... pas assez connu, je pense. Et ces photos-là,
il y a une chaise.
Ouais. Je n'avais pas vu. Bon, ben voilà.
Tu me la files?
Voilà, ben, ça en fait une de plus. Alors, en fait, c'était la famille des... C'est aussi pour ça que je l'ai mis là. C'est le souvenir commun de tous les gens que j'ai fait parler sur leur souvenir de bidonville. C'était la famille un peu des patriarches de bidonville qui étaient des montreurs d'animaux d'Europe de l'Est. Et donc, leur attraction principale, c'est un ours qui se déplace sur une boule. Et donc, un souvenir que tout le monde raconte, mais qui me semble un peu improbable, c'est qu'enfant, il voyait l'ours se balader sur la boule au milieu du bidonville. Voilà, bon, mais... voilà, en tout cas, c'est notamment après, autour de ce que d'autres gens ont pu raconter sur ces pratiques de métier, par rapport aux forains, par rapport à la question du nomadisme, par rapport à, aussi à tous les métiers, ça c'est quelque chose qui m'intéresse encore plus, de lié aux récupérations, au réemploi des choses et aux économies parallèles et à ces habitats en fait qui sont fondateurs de la construction officielle de la ville, mais qui sont une zone noire de l'habitat par ailleurs. Enfin voilà, c'est dans des connexions comme ça que...
Moi, j'aimerais mettre ça. Là, alors ce que je vous présente là, c'est de petites graines qui font partie de cette collection de graines que j'ai engagée. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que j'ai commencé à collecter des graines avant de partir, sans que ça soit réellement un projet, sans mesurer en fait l'importance que ça allait devenir en fait au sein de mon travail. Simplement parce que c'était quelque chose de clos avec un fort potentiel. Et lié à la semence. Donc en fait, il y avait des liens formels et épistémologiques par rapport au projet que j'étais en train de développer, Spermwaller's Dream, donc la baleine de semence, et puis aux formes que je développais aussi. Donc je m'intéressais aux graines pour ça. Et j'invite Françoise Vergès, que j'ai réinvitée du coup à venir, qui viendra mi-mai, le 12 mai. Ouais. Et Françoise me dit « Ah, tu t'intéresses aux graines ? Mais moi aussi, c'est super. Mais... tu connais l'histoire de cette graine et de la botanique vis-à-vis l'impact de l'homme sur un territoire par le biais de la botanique. En fait, on a commencé à engager une discussion là-dessus. Elle avait fait quelques recherches et à l'époque, elle travaillait à Béton Salon. Et elle avait présenté un lien comme ça entre botanique et occupation d'un territoire. Et donc, on a engagé une discussion. Et en fait, au fur et à mesure, moi, ça m'a emmené à collecter des graines et à demander à des gens qui voyageaient aussi de me ramener des graines de leur voyage. Et donc, Françoise viendra nous parler. Elle a continué cette recherche-là, viendra nous parler de cette histoire de graines. Et donc, ces petites graines-là qu'on retrouve, qui sont des graines d'Argus, qu'on retrouve un peu partout dans les Antilles et en Amérique du Sud aussi, et vers la Louisiane également, sont des graines qui ne sont pas du tout liées au territoire qui ont été rapportées, en fait, qui sont des graines en Afrique. Et on les retrouve, vous avez dû déjà en voir si vous êtes allé des fois, vous allez des fois au Quai Branly, sur des masques. Il y a des masques qui sont remplis de ces toutes petites graines-là. Moi, je connaissais ces graines petites parce qu'on faisait des colliers avec en Martinique. Mon frère faisait des colliers avec. Mais il fallait absolument... Mes parents ne voulaient pas qu'on traîne dans les pattes de mon frère quand il faisait ça parce que c'est un poison extrêmement toxique. Et ces graines, en fait, ont été emmenées par les déportés. Les gens qu'on a envoyés, qu'on a emmenés dans les négriers, dans les bateaux négriers, ils emmenaient avec eux des graines de cet ordre-là. Et dans pas mal d'écrits de voyageurs, on retrouve en fait cette question des empoisonneurs. C'est-à-dire que le nègre empoisonneur, la figure du nègre empoisonneur revient dans énormément de récits, parce qu'en fait, il partait avec des graines, non pas pour empoisonner, mais pour pouvoir se foutre en l'air. Voilà. Et il faut savoir que dans comme dans beaucoup de religions, mais c'était le cas en Afrique de l'Ouest, dans pas mal de cultures, à la mort, de toute façon, on revenait sur la terre des ancêtres. Donc, mourir, c'était la possibilité de revenir. Et il y a pas mal de mythes et de récits de colons aux Antilles, et notamment un par le Père Labat. Père Labat, c'est au niveau de documents et récits des Antilles, pour le 17e, c'est ce qu'on a de plus riche au niveau de l'histoire de la Guadeloupe et de la Martinique. C'est-à-dire que c'était un curé aventurier, en fait, qui est arrivé au début de la colonisation de la Martinique. Et qui a participé notamment au massacre des derniers Indiens, et qui avait un regard assez intéressant parce qu'il camoufle pas, il analyse beaucoup de choses qu'il voit. Il y a une anecdote qui est assez marquante et d'ailleurs qui a été reprise dans un film de Lars von Trier, dans Mandarley, où en fait il y a cette femme qui mange de la terre. On lui dit non, ne mange pas de la terre, il ne faut pas manger de la terre. Et en fait, on retrouve encore à Haïti, et maintenant qu'il s'exporte sous forme de biscuits, des biscuits faits avec de la terre. Et là-bas, raconte une anecdote assez marquante. Il dit qu'il débarque sur l'île, il est emmené par un colon qui vient le chercher en charrette, ils arrivent dans la propriété, et là, les domestiques viennent totalement affolés en disant qu'il y a un groupe d'esclaves qui sont partis se tuer dans la forêt. Donc lui, ce qu'il fait, il prend des cordes en plus et il les rejoint autour d'un grand arbre. Il savait exactement où est-ce qu'ils allaient aller. Et donc les autres avaient installé des cordes et lui, il accroche une corde et il se met dessous et il dit « Partout où vous irez, je vous suivrai et je vous ramènerai ici. » Et en fait, il raconte là-bas qu'il décroche les cordes et puis il rentre à la maison. Là. Et enfin voilà, tout ça pour raconter des histoires, des petites graines. On sème des choses et ça raconte des histoires. Ouais.
Du coup, ouais, ça fait un peu narration alternée, mais on va voir
bien.
Comment on arrive et où. Ça, c'est pour finir un peu sur l'histoire des séries d'images dont le contexte de production et de trouvailles rejoint un peu le récit des gens et la vie du territoire. Ça, c'est une série d'images assez incroyable qui documente la construction de tous les grands ensembles de la Courneuve. À partir de la fin des années 50 jusqu'à quasi la fin des années 60. Ces images-là, je les ai trouvées aux archives municipales, mais rangées assez bizarrement dans un endroit à part, pas vraiment nommé. Et puis, je les ai gardées comme ça en tête. Elles me marquaient beaucoup. Et puis, quand il a été question d'éditer le journal, j'ai voulu en mettre. Et donc, je suis retourné voir l'archiviste avec la liste de tout ce que je voulais publier, etc. Et il a été très, très gêné. Il m'a dit, mais bon, je ne sais pas. Oui, d'accord. Il faudrait... Et en fait, il m'explique que ces images ont été donc faites par le... C'est aussi un statut d'image assez particulier, faites par l'office HLM de la ville de Paris, puisque tous ces grands ensembles, en fait, étaient gérés, construits, planifiés par l'office HLM de la ville de Paris. Et quelque chose... Enfin, d'assez fort aussi, c'est donc le fait que les communes, quelque part, étaient dessaisies en fait de la gestion des vies, de l'immobilier, des terres, dans ces logiques de planification du logement social de masse. Et donc voilà, l'office HLM avait fait tout un tas de photos qui documentaient leurs travaux. Et dans les années 80, suite à un certain nombre d'événements assez dramatiques, dont des meurtres de jeunes par des policiers, etc., Mitterrand est venu à la Courneuve et a dit « Ok, on va rétrocéder la gestion des HLM à la commune ». Et quelques temps après, c'est donc ce que m'a dit l'archiviste, voilà, un jour, quelqu'un est arrivé aux archives avec des images, des chemises abîmées, et en disant qu'il avait trouvé ça dans une benne à ordures. Et en fait, c'est au moment où l'office HLM de Paris a quitté son bureau à la Courneuve, ils ont foutu tout un tas de trucs à la benne, dont apparemment, c'était peut-être des copies, c'était peut-être pas les originaux, pas les négatifs, mais dont toute cette série d'images, laissées sur place après le départ, on ferme la porte et on s'en va. Et en fait, par ailleurs, dans une discussion avec... les personnes avec qui on travaille sur le film, je parle des habitants avec qui on a des dialogues autour de leur récit, il y a une dame qui, par ailleurs, en fait, j'ai commencé par interviewer ses frères, et les frères, au travers du récit de leur propre vie, parlaient donc de la vie de leur père, notamment, de leurs parents, et le père était toujours un ouvrier, mais alors je n'évoquais jamais le métier du père. Et le jour où, beaucoup plus tard, j'ai interviewé la sœur, elle m'a dit, oui, je sais, moi, mes frères, ils disent toujours ouvrier, parce que c'est une fierté, mais moi, j'ai pas de problème à le dire, notre père, il était éboueur. Et donc, j'ai raccordé avec cette histoire de la benne et des images abandonnées, et on est parti comme ça sur le fait que c'était sûrement quelqu'un un peu comme son père qui avait trouvé ces images et qui avait fait qu'aujourd'hui elles étaient disponibles et aux archives et qu'elles étaient un témoignage de la construction de ces endroits qui sont aujourd'hui démolis. Voilà, donc ce sera peut-être une des histoires aussi qui structurera une partie du film.
Mais... Ce qu'il y a une image là, c'est qu'il se joue aussi de nouveau, un petit peu comme on en a parlé tout à l'heure, des régimes de narration, parce qu'autant la ville de la Courneuve va recevoir ces images quand la ville de Paris lâche en fait la gestion, et ça correspond à quelque chose qui à la fois est un document relativement important, mais qui est aussi réévalué par le contexte de la Courneuve, qui reprenant la gestion, trouve important d'avoir cette archive-là. Après, il y a ce que toi tu vas côtoyer dans le contexte de la Courneuve, quand tu vas vouloir raconter le bidonville contemporain, qui va donc mettre aussi quelque part en face du pouvoir politique en place, qui va tout à fait accorder une importance à ce récit-là, bidonville qui disparaît, la construction, Paris qui avait la gestion, la Courneuve qui la retrouve. Donc là, ce récit-là, il a sa place dans le journal. Quid du récit qui met aussi en scène un pouvoir politique qui n'a pas changé de couleur politique, c'est l'un des rares, parce que c'est une ville qui est encore communiste, face au bidonville d'aujourd'hui, qui donc ne participe pas au récit que souhaite mettre en œuvre la ville, puisqu'au contraire, comme tu cherches en tout cas à le mettre en relation, il y a un bidonville d'hier, un bidonville d'aujourd'hui, et finalement, comme par hasard, lorsqu'il est actuel, il est moins... Il n'a pas le même régime d'importance. Donc peut-être tu peux aussi parler de cette espèce de paradoxe du récit, parce qu'autant l'archiviste lui trouve précieux d'avoir ça, qu'il ne trouverait probablement pas très précieux d'avoir une vraie documentation sur les bidonvilles d'aujourd'hui à la Courneuve et des luttes qui s'y déroulent, qui sont aussi importantes et dans lesquelles tu t'es impliqué.
Mais pareil, pour rejoindre la question de l'archive, c'était assez troublant en fait, mais je pense que c'est peut-être assez courant, mais pour moi c'était un peu triste, c'est qu'aux archives de la Courneuve, alors ils ont très peu de moyens et je pense que assez peu de gens vont les voir pour des démarches comme ça, on pouvait discuter que cotes, mots-clés, il n'y avait aucun autre dialogue possible avec les archivistes. Par rapport à comment on fait pour tomber sur des images, parce qu'il n'y a pas que par code et mots-clés qu'on tombe sur des choses. Il y a des choses pas classifiées, et c'était strictement impossible. Donc il fallait y aller comme ça, de façon très empirique et aléatoire, et fouiller. Et par exemple, je suis tombé sur quelque chose que finalement je n'ai pas publié parce que... Bon, pour quelles raisons ? Pour des raisons sans doute un peu complexes, mais aussi parce que je ne voyais pas trop quelle place ça pourrait trouver dans le journal, qui était assez problématique, c'est qu'au milieu d'une revue de presse sur la question des nomades, ils ont des revues de presse par thème, donc il y a une grosse revue de presse aux archives de la Courneuve sur les nomades, il y avait un dossier qui s'appelle le dossier Rome, c'était marqué dossier Rome, et c'était juste une compilation de photos, alors c'est aussi comme type de photo assez intéressant, d'un agent municipal, de la voirie qui avait été missionnée pour prendre des preuves de tout type de dégradation liée à la présence des habitants en bidonville. Donc c'est une série un peu sans fin comme ça, d'excréments dans un coin, de poubelles pas ramassées, etc., de dossiers à charge, en fait. Et à un moment donné, j'ai évoqué ce truc-là, c'était vraiment une erreur qui se retrouve là dans une revue de presse sur ce thème-là. C'était vraiment un dossier interne, sur ces questions. Et malheureusement, la qualité du dossier était trop dégradée pour en faire quelque chose. Puis je pense que ça aurait été assez problématique. Mais
d'ailleurs, peut-être qu'on peut rebondir pour parler de la question de la qualité, parce que tous les deux, là, vous avez en commun un choix d'images qui sont comme des images qui ont de la qualité de production. Donc toi qui as traversé des archives un peu plus importantes, est-ce que justement, ce que tu retiens, c'est aussi des images qui ont une qualité, une valeur de document, mais aussi une qualité photographique importante. Là, on voit quand même des images qui sont des images qui sont cadrées, qui sont travaillées, on n'est pas sur du document. Est-ce que l'archive entière est constituée vraiment d'images qui ont la volonté aussi d'être des images? Parce qu'on a, c'est toujours l'interrogation qu'on a avec le recul, parce que les moyens de prise de vue contraignaient à une certaine manière de faire qui, du coup, entraîne aussi, entre guillemets, une certaine forme de qualité de l'image, un peu obligatoire, parce que parfois elles sont prises à la chambre, parfois elles sont moyen format. Est-ce qu'il y a un choix, d'après toi, délibéré, de faire de l'image aussi, au sens, ce qui va rester, c'est aussi une image qui a un peu de force en termes d'image,
Enfin, moi, pour avoir fait pas mal de recherches sur des images, justement, de la période coloniale et tout ça, en fait, il y a aussi beaucoup d'images qui ont été balancées parce qu'ils estimaient qu'elles n'avaient aucune valeur plastique, ou esthétique. Donc il y a énormément d'images qu'on a perdues parce qu'en fait ils trouvaient moche, et notamment au niveau des, si on parle d'archives même sonores, on était en Martinique et on s'est renseigné pour avoir les archives de RFO, et en fait dans les années 70, fin des années 70, en fait toutes les bandes qu'ils avaient, ils ont tout balancé, RFO en Martinique. Et en fait Victor Anisset, qui est un artiste local qui était un proche et un des exécutants testamentaires d'Edouard Glissant avec l'épouse d'Edouard Glissant, m'a dit, mais je connais quelqu'un qui travaillait avant avec notamment Sabat Etchar, vous ne connaissez certainement pas, mais qui est quelqu'un sur qui on a enquêté beaucoup, qui est un écrivain français, mais c'est une longue histoire, mais quelqu'un de tout à fait passionnant au niveau de son histoire, connaissait Sabat Etchar, et Sabat Etchar lui avait dit à un moment donné, ça, c'est des archives importantes. Et après, lui, il est parti, Sabat Etchar, puis s'est suicidé. Et donc, il en avait gardé. Donc, on l'a recontacté, on a retrouvé contact de cette personne. Et en fait, le jour où on l'a eu, donc on était en résidence ici, on apprenait en fait qu'il était sur son lit de mort. Et donc, on n'avait pas allé avoir accès aux archives avant que la succession Donc en fait, c'est resté en stand-by. La veuve m'a dit, de toute façon, moi, je ne m'occupe pas de ça, c'est les enfants, et puis ils veulent en faire quelque chose peut-être, et tout ça. Et puis, c'est des trucs confidentiels, ça n'aurait jamais dû être sorti, ça devait être détruit. Je sais très bien de quoi vous parlez. Voilà. Donc à un moment donné, il y a aussi des... Voilà. Mais c'est intéressant de voir aussi comme certaines choses peuvent être encombrantes. Et il y a un autre élément qui m'avait intéressé. Il y a un livre assez merveilleux qui s'appelle City of Shadow, qui est un livre australien sur photographie, en fait, commissaire australien qui a réuni... Ils ont trouvé un fond dans une cave de commissariat central de Sydney, qui avait été déplacé à un moment donné, donc qui était devenu un autre bâtiment. Et dans les caves, ils ont trouvé en fait énormément de clichés verts, et où en fait, on n'a aucune légende. Et ce livre, donc, c'est un ensemble d'images, de preuves, parce qu'à l'époque, pour faire des clichés verts, pour le coup, tu disais laborieux et tout ça, extrêmement compliqué, et on n'a pas de légende, parce que toutes les légendes étaient sur papier, ont disparu. Donc on a une espèce comme ça de... C'était des photographies pour mener une enquête, et ce qui est assez génial, c'est qu'on se met à mener une enquête de savoir à quoi devaient correspondre ces images par les indices qui sont laissés. Alors des fois, c'est assez évident, et puis des fois, c'est des rues. Des fois, on ne comprend pas trop ce qui se passe. Il y a quelque chose aussi, en tout cas moi, dans l'attrait que j'ai vis-à-vis des archives, il y a évidemment ce que ça raconte, mais ce que ça peut raconter.
Justement, Jérémy, sur la question des auteurs, des photographies, est-ce que c'est quelque chose aussi sur lequel il y a une autre couche de recherche ou de piste sur laquelle tu as travaillé? Qui photographie? Est-ce qu'on retrouve des gens qui est commanditaire de l'image, ou est-ce que c'est l'image uniquement produite par les municipalités, les départements? Est-ce qu'il y a des photographes qui travaillent de manière indépendante? Est-ce que tu t'es intéressé à ça?
Pas plus que ça, mais c'est-à-dire qu'effectivement, pour partie, les gens dont j'ai reproduit les images avec accord, etc., étaient décédés. Et pour autre partie, c'est vrai qu'ils étaient... Alors ça serait intéressant de faire l'enquête, je pense qu'elle serait assez compliquée, mais effectivement, d'essayer de retrouver qui a été le photographe. Par exemple, le récit du photographe qui a fait toutes ces mises en scène de moments de vie dans les foyers Sonacotra, ça pourrait être assez passionnant, je pense, parce qu'on ne le voit pas bien sur cette carte postale-là, mais c'est vraiment du Jacques Tati, quoi. C'est-à-dire les couleurs, les vêtements, les poses, tout le monde sourit, tout est parfait, quoi. Et donc ça a dû demander quand même un vrai travail, quoi. Et je pense que le récit doit être assez cocasse, ouais, du photographe qui a fait ça. Mais par contre, dans le film, il y aura un récit en partie fictionnel, du coup, sur le fond principal qui est présent là, qui est le fond donc daté des Quart-Monde, qui a été réalisé essentiellement par un photographe qui en fait était surtout militant et par ailleurs photographe. Et en fait, en accédant, pareil, en fait, il y a une espèce de sélection d'images de ce photographe qui a un tout petit peu circulé, parce qu'il y a des étudiants de Viltaneuse qui ont travaillé sur quelques images. Mais sinon, c'est juste dans leur fond. Et ils ont toutes les planches contact. Et en fait, moi, ce qui m'a assez fasciné, c'est en allant regarder les planches contact, c'est de voir du coup comment un regard se construit et se pose, parce que cette personne, au départ, d'après ce qu'on voit, maîtrise assez mal la technique au début, le cadre, le point. Et de plus en plus, les choses commencent à devenir très fortes photographiquement, et ça va de pair avec la relation humaine, quoi. Et donc c'est très beau, parce qu'en fait, au début, je schématise un peu parce qu'il y a des exceptions dans les planches contact, mais les premières, c'est le bidonville vu depuis l'autre côté de la rue. Et puis petit à petit, on entre aux lisières, et puis dans les ruelles, et puis on voit quelques silhouettes, mais distantes. Puis après, c'est que des photos d'enfants, parce que souvent, on commence par avoir un rapport avec les enfants, c'est plus simple. Et puis des habitants qui se cachent le visage, qui restent dans les entrebâillements des portes, etc. Et dans l'extérieur, donc. Et puis comme ça, au fur et à mesure de... C'est sur toute l'année 68, donc... Voilà, il a passé un an comme ça à faire toute cette série. Et au fur et à mesure, on entre dans les intérieurs et les regards se posent, et les regards se posent face à la caméra. Et à la fin, il y a une espèce de densité, de quelque chose d'assez impalpable, en fait, de l'humain qui passe par la relation. Parce que lui et quelques autres étaient vraiment des gens qui étaient là en permanence pour aider les gens au bidonville. Et voilà, par exemple, la progression vraiment de cette série-là, elle est très belle, quoi, sans chercher à la recomposer. Mais au contraire, en restant fidèle à l'ordre de ce qui a été réalisé à l'époque, quoi.
Et juste que tu l'as évoqué, peut-être on peut continuer sur ce point-là, qui va être un point pour cette dernière partie un peu, c'est de peut-être évoquer à partir de ce matériau-là que chacun, à votre manière, vous collectez, à la fois de manière avec un objectif précis, puis aussi de manière plus fortuite. Essayer de penser à comment se fait après quelque part cette mise en récit des images, puisque les images sont là, elles ont parfois une histoire pas très claire, parfois une histoire plus connue, parfois pas d'auteur, parfois des auteurs. Mais vous, à côté de ça, vous n'êtes pas des archivistes, vous êtes tous les deux artistes et cinéastes, donc l'enjeu est quand même de fabriquer une forme à partir de ces formes-là qui ont déjà, en tant que telles, de la qualité. On voit des images là, sont quasiment toutes des assez belles images. Je veux dire, il y a une espèce de... Ce n'est pas du petit document, c'est une image qui a déjà donc une espèce de... Et une biographie, mais aussi une assise en termes esthétiques, hein, carrément une existence. Et là, voilà, vous entreprenez un geste pour aller vers une œuvre tiers. Je dirais, pour le dire ça de manière un peu comme ça, pas provocatrice, mais pour dire un peu encombré de la qualité du document que vous avez aussi. Parce que quand on parle d'un document qui a déjà une qualité, qui a déjà une profondeur historique, qui a déjà une biographie, comment on fait pour, justement, quand on va à son tour, faire un geste qui va aller vers une œuvre nouvelle ? Évidemment, en mettant de côté une exploitation strictement documentaire qui pourrait être une exploitation illustrative. Je dis ça parce que comme nous, on a travaillé en rapport avec l'INA à plusieurs reprises, notamment sur un projet récent de film. Notre interlocuteur à l'INA, qui s'appelle Gérald Collas, qui cherche justement, lui, à ce que des gens exploitent l'archive autrement que pour un documentaire à la télévision ou sur une voix off, des images viendraient. Il fait aussi appel aux artistes pour essayer de trouver d'autres régimes, tout en nous avouant qu'à 99,9%, quelqu'un qui appelle l'INA, c'est pour avoir une image précise, donc pas aller la chercher dans les millions d'images qu'ils ont, mais une image qui est déjà identifiée. Dalida est en l'occurrence numéro un de l'INA, je vous dis, comme ça, si vous ne le savez pas. C'est le truc le plus demandé à l'INA. Allô, il y a un appel sur X qui concerne Dalida. Je crois que c'est Claude François le deuxième. Ils ont donc en fait le leadership. C'est donc pas de l'image obscure cherchée. Et surtout, c'est de l'image qui directement va être plaquée à avoir une fonction d'illustration, donc qui va avoir une fonction de renforcement de la parole. Là, j'ai l'impression que tous les deux, vous cherchez autre chose. J'aimerais bien que vous parliez de ce moment de négociation vers ce autre chose, quoi.
Oui, moi, je pense pas que le fait d'avoir... d'ailleurs, là, la discussion s'oriente sur ces images. Mais je pense que par ailleurs, comme toi, tu disais... d'une part, des fois, tu vas finir par produire des formes qui ont infusé en fait ces images extérieures. Et ça, je pense qu'effectivement, c'est quelque chose, à force de fréquenter des images et d'être hanté, disons, par certaines, il y a des choses qui se reproduisent consciemment ou inconsciemment dans les images qu'on va faire soi. Et c'est plus aussi un espèce de compagnonnage, quoi, de vivre avec des images, je pense, le temps comme ça d'une recherche, mais par ailleurs, je pense que c'est un rapport, assez scindé aussi aux choses. Que moi, j'aimais beaucoup ce que tu racontais, peut-être tout à l'heure, mais en tout cas, quand on parlait l'autre jour de cette place qu'a le statut de la réalisation d'images pour toi dans l'ensemble du travail, quoi, comme quelque chose d'un peu, je sais pas, un à côté, mais enfin, tu pourrais en parler mieux que moi. Et voilà. Et je pense que par ailleurs, voilà, moi pour l'instant, j'en parle comme ça parce qu'effectivement, c'est une expérience assez stimulante en fait de travailler comme ça 2-3 ans sur le chemin d'un film, certes, mais en faisant totalement autre chose. Mais je pense que ça, bon, c'est aussi propre à chaque fois que peu importe qui sort de son domaine de pratique, disons, et découvre autre chose qui lui plaît, c'est stimulant. Mais je sais pas, en tout cas ça déplace le rapport à certaines choses, mais...
C'est plutôt des dynamiques de travail. On peut se dire, en gros, dans une modalité de fabriquer une œuvre par rapport à un sujet, il y aurait peut-être deux cas de figure, en tout cas principaux. Le premier, c'est de faire assez vite, d'aller assez vite du côté de l'œuvre, c'est-à-dire de pas approfondir. Et là, moi, je vois aussi des choses qu'on a pu vivre, des projets qu'on accompagne, où il y a un niveau de connaissance d'un sujet qui interdit progressivement un certain nombre d'œuvres possibles. J'ai envie de dire que soit tu fais un film tout de suite, soit plus tu avances, plus tu prends le risque de ne pas faire de film. Parce que finalement, la relation déplace, en fait, il se passe plus de choses dans ce qui est vécu avec la matière, il se passe plus. Et quelque part, le moment de l'œuvre est quand même un moment de mise à distance. Et je voulais juste essayer de comprendre comment, quand on plonge profondément dans une matière, comment on fait ce moment de déplacement qui est de façon nécessaire. Une œuvre, il y a quelque chose qui est mis à distance, mais quand on est assez profondément en relation avec les personnes concernées, mais aussi, comme tu dis, en
familiarité avec les images, comment on fait ce choix à un moment donné de dire oui, mais je vais quand même faire un geste qui pourrait être un autre geste, que ce geste d'exploration, il peut être sans fin, il se suffit à lui-même. Moi, je ne pense pas que l'œuvre est forcément nécessaire. Justement, lorsqu'elle n'est pas tout de suite accédée, comment on y revient? Parce que c'est la question aussi, toi, à un moment donné, de faire un film, comme à un moment donné, Vincent, dans des collections qui maturent, que quelque chose sorte.
À vrai dire, c'est en cours, mais donc c'est assez difficile de le dire. Mais ce que je peux juste dire, c'est que le film qu'on verra après, c'était tout l'inverse, c'était un va-et-vient permanent, en fait, entre aller filmer, aller dans les archives, faire parler les gens, remettre en scène un truc qui s'est passé dans la rue 3 jours plus tard, etc. De façon très très chaotique comme ça, et sur tous les champs en même temps en fait. Et bon, là c'est pas du tout ça pour l'instant, mais on va voir. Après, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de vivre avec et de pas et d'avoir un peu confiance en fait que le moment de la réalisation, c'est vraiment une, enfin au sens du film. Si on est cinéaste, c'est un tout petit bout de quelque chose. Et que, bon, moi, personnellement, je pense que c'était un moment où j'avais envie que plein d'autres étapes du travail soient d'intensité égale, en fait, à celle du tournage. Et je ne saurais pas, là, comme ça, dire pourquoi ça me semble nécessaire, mais je crois assez profondément, là, en ce moment, en tout cas, que la relation qu'on développe à des documents, à des choses, et surtout à des gens avec qui on travaille sans être en posture de capturer, tout de suite, change énormément de choses, quoi. Mais après, oui, il peut y avoir le danger qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de films potentiels et interreliés sans fin. Mais ça, à la limite, quand la stimulation vient du fait d'essayer de raccorder des choses entre elles qui sont pas toujours exactement emboîtées ou qui sont à distance, après, il y a aussi le montage en soi. Et
vous pouvez poser la question du déplacement même statut et de la pratique par rapport alors en allant dans ce travail d'enquête vraiment en cours dans la durée, fondamentalement, mais je trouve qu'il y a quand même un déplacement du geste, du travail en fait artistique, moi qui m'intéresse, ce déplacement qui pose l'hypothèse possible de ne pas faire pour faire autre chose, mais se faire autre chose, l'hypothèse d'être un praticien qui met en jeu le fait de pouvoir pas fabriquer et pas pratiquer dans le travail. Je trouve qu'en tout cas, dans ton expérience précisément, je trouve qu'il y a ce risque-là, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire peut-être ne pas.
Oui, il y a plein de moments où j'étais avec des gens et je me suis dit, je préfère vraiment pas filmer. Je préfère être là, sachant que ça nourrit des choses qui seront filmées par ailleurs.
Ouais, moi, j'aurais envie de répondre la même chose. L'expérience typique, qu'on a, la résidence qu'on a fait ici avec Marion Cross, sur lequel on a travaillé à partir de tout ce qu'on avait accumulé en Martinique avant et sur place et après pour réaliser une pièce sonore. On avait des subventions, on avait des sous, tout pour produire une pièce sonore, et en fait on n'avait pas de son, quoi. On avait plein de sons de plein de choses, mais pas des gens, quoi. C'est-à-dire que dès qu'on avait le micro, on entendait le moustique voler, quoi. Et in fine, ce qu'on a présenté, c'est une table remplie de documents, quoi. Et qui finalement, peut-être, c'est ça qui fait œuvre, c'est le fait de ne pas pouvoir, avec, et qui parle constamment de l'absence de pouvoir dire. Donc cette table de documents qui est sur Archipel, dans beaucoup de documents, en fait, ce sont les colons qui parlent, mais il n'y a pas de parole de l'autre côté, quoi. Et aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de parole, même de, c'est-à-dire plus tout le monde se tait, quoi. Et peut-être que ça arrivera vers ça, vers quelque chose qui finalement ne peut pas s'énoncer, mais il faut qu'on trouve la forme. Et une autre expérience assez amusante, tout à l'heure je mettais cette image là, on en discutait tout à l'heure de à un moment donné, de ces images qui nous habitent, qu'on consomme, on se passionne pour, on enquête dessus, etc. Et il y a quelques années, j'avais imprimé cette image à partir de mes archives, des photographies que je faisais et tout ça. Et puis, j'avais un projet, j'avais besoin de cette image, mais en grand format, de très bonne qualité. Il fallait vraiment qu'il y ait un piqué très, très bon pour qu'on puisse voir. En fait, c'est un tronc avec à l'intérieur une madone, un portrait d'une madone. C'est une chapelle dans un tronc. Et j'ai photographié énormément d'objets de ce type-là en Martinique et notamment à La Réunion. Parce qu'à La Réunion, on a énormément de chapelles de ce type-là, pour la Vierge Marie ou pour Sainte-Expédite. Et j'ai photographié énormément de Sainte-Expédite dans des niches, La Réunion, tout ça. Et j'avais cette image, finalement, là où c'est une Vierge, que je trouvais mille fois mieux que toutes les autres, quoi. Et donc, j'acherche. J'acherche pendant longtemps, je sors tous mes négatifs, je cherche, je ne trouve pas. Et un jour, en fait, j'ai retrouvé, et en fait, ce n'était pas mon image. Mais j'étais persuadé, mais intimement persuadé, je voyais le tronc, je voyais sortir l'appareil, je me voyais me placer pour photographier cette image. Et ce que je disais vis-à-vis des images que je sélectionne parmi toutes les images que je fais, c'est celles dans lesquelles je retrouve les images qui m'ont possédé, quoi, en fait. Et c'est à partir du moment où j'ai l'impression que ça aurait pu être vraiment l'image d'un autre, à un autre moment, et c'est là où elle commence à m'intéresser réellement, quoi.
Après, tu disais qu'il y a quelque chose qui ne se dit pas, bon, en tout cas dans le cas de figure que vous avez expérimenté avec Marion. Après, toute la question aussi sont les dispositifs de... Peut-être les dispositifs de la parole, les dispositifs de l'image. Ça, tu disais, par exemple, tu montes des images, les gens réagissent sur les images. Ça aurait pu être un mode opératoire aussi d'un film qui fonctionne, hein, de montrer une image. Donc, quelque part, c'est vrai qu'une chose ne se dit pas dans un dispositif donné. Je crois que le travail de l'art, c'est aussi, à des moments donnés, sur le document, de trouver l'espace dans lequel les choses peuvent se raconter, soit avec des affinités beaucoup plus grandes, tissées dans la durée, soit à l'inverse, dans une logique, moi, je dirais, un peu impénitente, qui est de dire au contraire, le premier jour où tu vois quelqu'un, tu le filmes parce que tu dis, voilà, bienvenue. Moi, quelque part, presque, il y a ces deux seuils-là, quoi. Soit c'est vraiment dans un rapport de connaissance, soit c'est au contraire dans un rapport d'un corps qui assume son altérité et qui vient se poser dans une espèce de médiation d'altérité, de dire, voilà, la question de dire, d'être accueilli et accueilli comme étranger et peut-être pas de tendre vers la question d'une forme d'affinité ou d'amitié et d'affect, mais au contraire dans une radicale différence. Je dis ça parce que moi j'ai l'exemple d'un projet que j'avais accompagné ici il y a presque au tout début de Kiasma, il y a un peu moins de 15 ans, avec le photographe marocain Hicham Benoud. Et donc Hicham, il fait des photographies, il a fait beaucoup de travail de mise en scène de ses élèves, ce livre qui s'appelle La salle de classe au Maroc, qui est très connu, où on voit ses élèves qui se lèvent, qui portent une ficelle, un carton, un truc très simple. Et donc je lui demande au début, parce que moi je le connais bien, mais au départ je le connaissais moins bien, donc tu lui poses des questions, ou des cas tu es envoyé dans les cordes. Et la première fois je dis, ouais, on était avec des profs, on voulait faire un... Et tous les profs qui voient ce type de bouquin-là, ils tripent, quoi. Ils disent, ouais, c'est génial, enfant debout sur la table qui porte un carton, une ficelle, il y en a un qui cache son visage, ça et tout. Et donc, on a fait une réunion, je me rappelle, et je n'avais pas pris la peine de lui poser la question avant, en fait. Et du coup, je lui pose avec les enseignants, dire, ouais, Hicham, tu peux nous raconter comment ça se passe? Il dit, bah, tu sais, bon, c'est simple, moi, je suis prof à Marrakech, je m'emmerde vraiment, je suis prof parce qu'il faut que je gagne ma vie, j'arrive pas à être artiste, toi, c'est ce que je veux faire vraiment, et donc, je suis prof, et je suis prof d'art plastique dans une école, un collège, et donc, là, un prof d'art plastique, il donne une consigne au début de l'heure, et à la fin de l'heure, il ramasse les copies. C'est ça le travail. Tu dis, vous allez dessiner ça, machin et tout. Et donc, pendant l'heure que je passe à les regarder, j'ai fini par beaucoup les regarder, mes élèves. J'ai passé mon temps à les regarder. Puis après, je me suis mis à faire un truc. J'avais mon appareil photo, j'ai commencé à photographier. Puis après, j'ai commencé à dire, à toi, là, tu peux te lever, te mettre là et faire ça. Et en fait, j'ai utilisé le fait qu'ils étaient disponibles sous mon autorité pour faire cette série de photos qui a fait le tour du monde. Et donc, les profs qui étaient là en face tombaient complètement à la question de l'autonomie de l'élève, machin. Non, non, rien à foutre. Au contraire, ils ne peuvent rien me dire parce que je suis prof à Marrakech, sinon tu dégages. Et donc là, ça avait fait un espèce de clash, mais qui était quand même assez drôle. Donc, désespoir total dans les yeux des enseignants, tout ça, mais c'est pas possible. Et en fait, on l'a accueilli en résidence l'année d'après, en disant, OK, on va jusqu'au bout de ce truc-là, et dans une cadre d'une commande du département, sur la présence des origines africaines en Seine-Saint-Denis. Et donc, je lui dis, ben voilà, Hicham, on va faire un protocole, travailler les habitants, qu'est-ce que tu proposes? Je propose de pas du tout leur parler, il faut que tu t'arranges pour qu'ils ne m'adressent pas la parole. Je veux aller chez eux, je veux avoir une heure de leur temps, je fais ce que je veux de leur intérieur, je fais une photo, et s'ils disent non, je ne le fais pas. Eh bien, je n'avais jamais expérimenté de faire ça, qui est quelque part une espèce d'antithèse de notre rapport de médiation à l'art et tout ça, etc. Et qui était, tous les gens ont adoré. Parce que nous, on était hyper précautionneux en disant, bon, vous voyez le truc. Je dis, oui, j'ai compris et tout. Et je dis, bon, ah, c'est super. Et ils ont vécu ça comme une performance. Alors le truc, c'est quand même, ils mettaient les appartements sans dessous dessus, ils accrochaient les gens, les machins, il y avait dans le genre des espèces de scènes un peu comme ça, un peu délirantes. Et qu'il a fait une super série sur la base de dire, le seul truc que je veux pas, vous me demandez pas pourquoi je vous demande ça. Si vous le faites pas, on arrête. Et les gens, ils ont fait.
Et donc, ils ont accepté de mettre renverser leur appart, mettre au sol, machin. Les photos étaient assez débiles. Et je trouve que, voilà, à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe aussi dans une volonté de se dire, soit on fait connaissance, et donc on rentre dans un rapport où l'œuvre va faire appartenir à un rapport d'amitié, soit au contraire, on peut aussi radicalement dire, de toute façon, moi je viens d'un autre monde que votre monde, il y a tout est différent, et je ne vais pas simuler le fait que j'ai envie d'être vos potes, je viens faire une photo, et quelque part je le mets en scène de manière radicale pour que ce moment-là, il soit un moment différent d'un autre moment. Et donc on peut aussi se dire, la question de l'interrelation, parce que c'est vrai que pareil, quand on a monté l'exposition, j'imagine, là on avait tous les élus de Lila qui disaient, alors racontez-nous un peu, et tout. Non, mais je ne vous raconte rien du tout, parce que si je dis le protocole, tu sais, c'est quand même un truc qui est quand même pas rien, quoi. Et les élus attendaient un truc de dire, ouais, le travail avec les habitants, le fameux travail avec les habitants. Là, c'était le truc. Une heure par habitant, donc il y a 15 photos, il y a 15 heures. Le reste du temps, je ne vais pas entendre parler de vous, je viens que pour faire les photos et j'ai qu'une heure. Et moi, j'ai trouvé ça super intéressant parce que quelque part, il y avait une contre-forme critique de nos habitudes de l'art, et donc il posait une possibilité d'entrer en relation, mais en relation. Et je sais qu'il a fait cette version qui s'appelle cette série qui s'appelle Version Soft, où il est donc nu et il s'accroche des objets sur le corps. On a montré une partie de cette série ici. Et la version soft, c'est parce qu'en fait, la vraie série, il est nu debout en s'accrochant des objets dessus. Et il dit, voilà, moi, c'est la série que je ne peux pas faire à Marrakech parce que, vous voyez, moi, je suis arabe, ça. Vous êtes dans un pays libre, comme ça. Et donc, il était en résidence en Belgique. Il a demandé à toute la scène artistique de se mettre à poil avec des objets. Et personne n'a voulu. Et donc, il dit, oui, on va choisir des lieux. Et donc, il disait, voilà, à l'époque, c'était à 10 ans, on va aller à la mosquée de Bruxelles et on va prendre toute la scène de l'art contemporain. Vous allez vous mettre nu et faire ce que je vous demande. Et donc, personne n'a voulu. Donc, il dit, bon, ben, alors moi, je vais faire la version soft qui est photographiée dans une église à Paris où il est nu. Et il s'accroche d'objets dessus. Et il dit, je coupe à la taille, hein, parce que finalement, l'Europe, c'est pas ce qu'on croyait, quoi. Donc, et ça s'appelle version soft. Et je trouvais que pareil, il proposait de dire, moi, je croyais qu'on pouvait se foutre à poil partout ici, qu'on pouvait faire vraiment tout. C'était un trip de la. Et je trouve que voilà, dans l'histoire d'Hicham, je raconte aussi peut-être des modalités de relations qui sont toutes assez variables. Mais je me dis toujours que quand on rentre plus en profondeur dans la matière, se pose la question de comment on arrive à faire le geste. Qui va aussi pouvoir, et là c'est pour aller peut-être en cet endroit-là, décevoir ou créer un désaccord ou par rapport à la réception même de l'œuvre, puisque nous on accueille des artistes en résidence qui font des œuvres et parfois des films. Et évidemment, la question de la restitution avec ceux qui ont participé devient un espèce de moment à savoir est-ce que c'est quelque chose qui doit leur plaire, est-ce que ça ne peut fondamentalement pas leur plaire, ou est-ce que là, Jérémy, j'ai envie de dire est-ce que cette question-là elle se pose quand tu dis je vais faire un film, et peut-être que les gens avec qui j'ai créé ce lien un peu personnel, du coup, ça va créer quelque chose d'un effet de recul, quoi.
Bah oui, c'est sûr que c'est évident qu'il y aura sûrement des réceptions très déroutantes, déroutées. Mais par ailleurs, un des projets du film, c'est de faire dialoguer donc ces anciens habitants des bidonvilles et certains qui connaissent ça actuellement, qui, moi, dans les exemples que j'ai, mais qui sont quand même un peu. Enfin, c'est pas juste deux, trois exemples, c'est des zones où il n'y a pas de dialogue, quoi. Donc, déjà, mettre en place du. Essayer que le film puisse être une occasion comme une autre, en fait, de créer ça ou témoigner de ça, c'est une chose. Et après, je dirais, je préfère la nécessité d'aller creuser le rapport au témoignage et non pas forcément pas la question de l'amitié ou de l'intimité, mais vraiment juste en fait de ce à quoi on accède. Moi, comme les gens, donc j'aimerais qu'ils entendent les choses qui seront dites dans ce film. Juste parce qu'en fait, je crois profondément que le temps est nécessaire pour que parfois des choses, un certain nombre de choses puissent se dire d'une certaine façon. Et je crois que ça, c'est plus nécessaire que le risque que la relation finisse par empêcher la liberté, disons, d'interpréter ou de créer. Sachant qu'effectivement, je sais très bien que c'est quelque chose. Le film qu'on verra après, par exemple, il a un peu comme celui qu'on fait là. Le film met en relation des réalités séparées et donc des gens de par leurs univers, qui se côtoient pas. Et je me souviens que la première projection qu'on a fait a été du coup le prétexte de rassemblement de ces gens-là. Et tous les gens m'ont dit, ah, la partie que t'as fait sur En gros, ce qui me parle comme réalité, c'est super. Le reste, je trouve ça hyper étrange, quoi. Enfin, pour des questions narratives ou plastiques, mais pas que. Et en même temps, la volonté de ce film-là ou d'autres, c'est justement de faire coexister des choses. Donc, c'est aussi le temps, parce que je pense qu'effectivement, du coup, là, le champ des archives vient circuler. Enfin, je sais, il y a des familles là qui j'ai montré, du coup, toutes ces images. Il y a eu des discussions assez belles, quoi, sur. Tout d'un coup, ils disaient « Ah merde, mais en fait, cette ville, elle s'est construite sur des trucs comme les choses dans lesquelles on vit nous maintenant. Enfin, » et alors, ils étaient plusieurs milliers. Enfin, ils ont... Je sais pas, par exemple, c'est vrai que certaines personnes, ils ont conscience de plein de trucs, mais certains Roumains avec qui je parlais, ils se rendaient pas compte, par exemple, de comment l'État avait mené les choses à l'époque vis-à-vis des habitants des bidonvilles. Alors, c'est plutôt cruel, parce que du coup, ce que ça renvoie sur comment c'est géré actuellement, c'est... En fait, c'est mille fois pire, c'est ça qu'on voit quand on creuse un peu les archives. Mais effectivement, donc le champ des images d'archives rentre dans le champ de la vie des gens, que la vie des uns et des autres puisse un peu au prétexte de cette petite aventure-là, quoi. Sachant que le film en archivera des choses à son tour, quoi.
Quelque part, le film spécule un espace, quoi, invente aussi son espace.
Ouais, enfin, en tout cas, essaye de déboîter un peu des. Enfin, c'est vraiment un film sur le voisinage, quoi, et la coexistence, mais même stratifiée, parce que c'est aussi beaucoup une question de choses qui se sont remplacées les unes par les autres, de vie, de type d'habitat, de rapport à la ville, à l'économie. Et donc, c'est à la fois à plat, comme ça, entre, ouais, comme une carte entre quartiers ou entre zones qui s'évitent un peu ou s'ignorent un peu. Et puis, retisser aussi entre le. Enfin, ce qui est coupé dans l'histoire. Quoi, dans le...
Ouais, j'ai été confronté, en fait, à. Je travaille de moins en moins avec la parole des gens, enfin, ou les images des gens, etc. Parce que. Je n'arrive pas à faire ce que fait Hicham, clairement. C'est-à-dire que quand j'ai publié ce livre et qu'on m'a dit toutes les images où apparaît une particule d'eux, je renonce. Tu renonces à ces images, je ne veux pas entendre parler. Il ne s'agit même pas de question de droit d'image, parce que ma nièce étant majeure maintenant, je pourrais très bien lui demander et elle me dirait oui. Mais je sais ce que ça renvoie à ma sœur. Dans le cadre, et en fait, ce que ça peut abîmer. Et un exemple, donc là, c'est familial, donc ça me concerne directement, mais quand j'étais en résidence ici, on a retrouvé les traces de Sarah Etchar, la fille de Salvat Etchar. Et Sarah ne voulait pas nous rencontrer, on a compris, puis elle nous a rappelé pour vouloir nous rencontrer et nous a présenté, en fait, des archives, les lettres de son père, en nous disant, vous en faites ce que vous voulez, mais moi, je ne... Donc on a discuté longtemps avec elle avant, mais moi, je ne veux pas les lire. Et en fait, quand on a lu, on s'est dit que si jamais on lui annonçait, enfin, qu'elle découvrait quelque part d'autre, en fait, elle ne supporterait pas. Et du coup, on a décidé... Pourtant, c'était passionnant, mais c'était tellement violent sur leur histoire familiale et sur son existence à elle, qu'on a décidé de ne jamais publier, d'arrêter le projet, en fait. On s'est dit, bon, ben... Il faut qu'on soit contente, qu'on part sur autre chose, qu'on continue, mais on ne peut pas continuer sur cette piste avec Salvat Etchar, en tout cas à partir de ses lettres, sa correspondance, qui était quelque chose qui, dans notre travail, qui tombait pile poil, c'était merveilleux, etc. Mais il y avait une question éthique. Là. Voilà.
Donc, du coup, je ne pense pas que c'est ce que pose la question d'Hicham. Au contraire, non. Lui, il ne prend pas le risque de connaître les gens.
Ben oui, c'est ça le problème. Mais à la fois...
Il se dit, je suis avant même le seuil de ce type de problème.
Parce ben oui.
Contrat de subordination absolument total, quoi. C'est-à-dire qu'il y a comme un contrat de travail dans une entreprise, voilà, qui et il y a dans un. Moi, ça me rappelle toujours cette histoire du film Être et Avoir, là, le fameux documentaire qui est une sorte de conte, qui est beau, enfin, qui est une sorte de petite fable où on voit un prof d'école comme ça dans un petit village et les enfants sont magnifiques, on rit, on pleure et tout ça. Et en fait, le film, ça se finit, c'est que l'acteur demande, le film est primé à Cannes, l'instituteur demande des droits d'auteur, ce que moi, au début, je trouvais un peu rapace. Et en fait, je me dis que c'était totalement légitime, en fait. Et ça finit, il s'engueule et ça finit en justice, quoi. Donc là, la question du comment il s'appelle le cinéaste, je sais plus comment il s'appelle, Philibert, Nicolas Philibert, il fait un beau film, mais au niveau du contrat, il est absolument pas honnête, quoi. C'est-à-dire, il la joue sympa, il prend pas du tout en compte le fait que le type qui parle produit la valeur aussi par type de la valeur du film, et que lui, après, il va, quand que l'art, c'est aussi de la prédation, ce que fait Hicham, c'est de la prédation de valeurs, toujours, qui est d'abord symbolique et qui ensuite se transforme, se transmute, enfin, passe sur le plan économique, c'est-à-dire que voilà. Et il pose pas. Philibert, il évacue totalement la question et il se retrouve avec un truc. Et la conclusion de la justice, c'était que l'acteur n'était pas auteur de sa propre parole, sinon il aurait pu réclamer les sous, il n'a pas eu les sous. Ce qui est fou quand même. Le mec filme un type et le mec n'est pas auteur, puisque l'auteur, c'est le cinéaste, c'est le metteur en scène. Voilà. Mais le truc du contrat de subordination, c'est vraiment. Enfin, l'autre jour, j'ai vu une projection des films que produit Olivier Marbeuf. En ce moment, avec Spectre, et il y en a un, c'est avec Jean-Charles Hue. Et en fait, Olivier a avoué devant des, je sais pas si c'était des possibles financeurs, qu'en fait, l'argent du film payait à payer le crack que des mecs, que consommaient les mecs que filmait Jean-Charles Hue. Et là, il y avait aussi.
Et consacré à des mecs en train de prendre du crack. Donc, je sais pas, on est, s'ils sont filmés à un mètre, étaient dans la fumée, il faut dire aux gens que. Oui, mais comment c'est fait? Tu payes du crack aux gens. C'est à mon nez, sinon ils se le payent sans toi, quoi.
Mais le contrat, il est, c'est un contrat plus comme un dealer à un consommateur, quoi. C'est...
Ouais, moi, je pense, juste pour reprendre, peut-être aussi pour ajouter un petit élément par rapport à l'attitude d'Hicham pour décrire aussi peut-être tout ce que ça raconte, parce que moi, j'ai trouvé que c'était quelque chose qui racontait quelque chose de très, très passionnant en termes de récit sous-jacent. Il dit, voilà, moi, j'ai fait des pratiques artistiques que je pouvais faire parce que je n'avais pas de possibilité de circuler dans mon pays, de quitter mon pays, et qu'en fait, à chaque fois qu'à Marrakech, quand je prenais l'avion pour venir en France, à chaque fois, j'avais des douanes, un truc que vous ne visiez pas, vous, mais moi, les mecs à la douane, c'est des mecs que je connais, en fait, quoi. Et que du coup, il y a des jours, il disait « Ah non, ben nous, là, tu quittes pas le pays, quoi, une prochaine fois, next time. » Et donc, il disait, il avait eu plein d'invitations qu'il n'a pas pu réaliser, et que finalement, une fois que son travail a été montré de manière beaucoup plus vaste, notamment dans la grande exposition Africa Romix à Beaubourg, qui a pu un peu fait monter son travail à un niveau de reconnaissance internationale, il disait, je me suis retrouvé dans le cocktail à Beaubourg, Africa Romix, à discuter avec des gens qui me parlaient comme si on était une communauté d'artistes, nous les artistes. Mais il dit, ouais, moi je suis le mec qui a juste réussi à quitter son pays, là j'ai de la chance parce que le mec a vu que j'avais une invitation au Beaubourg et c'est passé, mais une fois d'après c'est pas sûr que je passe. Donc toute la salle de classe, c'est dire, moi j'ai été prof en art plastique parce que je pouvais pas être artiste, je pouvais pas montrer mon travail, et quelque part ce que son travail remet en jeu, c'est les contraintes particulières qui s'exercent sur sa pratique, et elles ne sont pas dissimulées derrière, elles sont complètement mises en activité. Et je trouvais qu'il était, comme moi j'ai écrit un texte sur Hicham en disant Hicham Ennou n'est pas photographe, parce que pour moi c'est un artiste conceptuel, parce que c'est ça qu'il faut comprendre, tout ce que son travail a de sous-jacent. Il dit, voilà, la subordination, moi dans mon pays, voilà, lui disait, il a été arrêté plusieurs fois pour son travail sur la question de la nudité et compagnie, et tu vas vraiment en prison. Il lui a vraiment payé une amende parce que t'as fait des photographies de nus qui ont été exposées à tel endroit. Il dit, moi, je vis ça. Donc, quelque part, je mets en jeu tous ces rapports de violence radicale exercés de manière complètement arbitraire dans mon travail. Et auquel cas, moi, je trouve que quand on les prend à ce niveau-là, de dire, moi, on me donne la possibilité de travailler, donc je demande des choses que l'autorité de ce domaine permet de faire, et je mets en face les commanditaires de l'autorité qu'ils exercent au niveau symbolique sur le reste de la société. C'est-à-dire que l'art, c'est bien, bah très bien, alors on y va, alors que l'art, on va faire ça, on va faire comme ça. Et systématiquement, une fois sur deux, il demande des choses qu'il ne peut pas faire et que donc les projets ne font pas, parce qu'il pousse aussi à souligner l'hypocrisie d'un système où, par exemple, la question de la nudité était quand même marrant. Quand on dit, bon, au Maroc, tu comprends que faire des nus, c'est un peu compliqué, machin et tout, mais en France, on peut, c'est cool, quoi, on peut en faire. Et du coup, une fois qu'il les pose, il les met en jeu, en scène, dans un contexte particulier, il montre aussi qu'il y a des tensions que nous-mêmes, on fait semblant d'ignorer et qui sont aussi présentes et qui aussi organisent ce qui est possible de faire et pas faire, quoi. Donc, pour moi, c'était comme une contre-forme. C'est vrai que le coup avec les profs, où je vois une espèce d'enthousiasme un peu gogol quand même, quoi, de mes sœurs enseignants sur le fait de dire, waouh, on a un super atelier art plastique à faire avec nos élèves, ils vont faire plein de trucs dans la classe, ils va les faire faute. Et lui, il dit, ouais, moi je le fais simplement s'ils se taisent, ici pendant une heure, ils font ce que je demande. Ce qui est peut-être le rêve d'un prof au demeurant, mais. Et en tout cas, là, posé comme ça, il posait aussi la question de se dire, c'est quoi le régime de fabrication de ces images où il y avait un malentendu. Et je pense que quand on travaille aussi directement en rapport avec des personnes se pose cette question-là, tu dis une éthique, ou juste, en tout cas, dans une pratique, de dire quels sont les régimes même qui permettent à cette forme que vous allez voir d'exister.
Il y a quelque chose qui se reconduit ici à une échelle culturelle qui n'est pas la même, parce que, en fait, il y a un inconscient qui traverse votre proposition-là, qui est lié à l'histoire de la photographie en particulier. Et peut-être qu'à cet endroit où est cet artiste-là, la question de prendre le risque et de faire une image se joue dans le présent de la production, c'est-à-dire au temps là, je crois que le risque qui est pris, enfin ce qui est nommé, la question du risque de l'image, elle est nommée de manière pratiquement diamétralement opposée de là où vous êtes, mais parce que vous mobilisez des images qui sont diamétralement opposées dans l'histoire. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est la question du risque se pose. Alors, partir en Martinique avec l'idée déjà d'une sorte de flux oral lié très certainement à une expérience et qui pose le fait qu'enregistrer, non pas que rien ne se dise, mais c'est plus possible d'enregistrer. Donc la question de la reconduction d'une archive telle qu'on la pense, nous, telle qu'elle est produite par l'Occident, à un endroit de l'histoire de la colonisation, elle s'arrête. Donc qu'est-ce qui se passe quand ? Est-ce que l'histoire s'arrête quand on ne fait pas d'archives ? Enfin, ça pose tout ça. Et à l'endroit où on voit ces photographies qui n'ont pas fonction, à la différence des photographies de pose qui reconduisent bien évidemment une histoire de la pose avec tout ce que ça a de rigide, avec des effets stéréotypés de décor, de... On a des photos dont on peut voir qu'il y a une qualité assez, assez puissante, dont on peut reconnaître une espèce d'efficacité plastique comme ça, mais qui vient après un travail, c'est-à-dire que là c'est une autre école qui est le travail de la photographie sociale, qui arrive à une image. Alors qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné on la saisit dans le temps et dans le ce que tu décrivais d'une évolution du rapport à l'autre, les mecs de très loin, les enfants, et là il y a cette image parce qu'il y a tout ce processus même qui est visible. Et ce que j'entends, mais de manière différente dans vos deux pratiques, si on s'intéresse plus à la relation aux gens, mais à la relation aux images. Et du coup, c'est la relation aux archives. Qu'est-ce que c'est que travailler avec ces archives ? Qu'est-ce qui se joue comme violence à l'intérieur d'une archive et qui est absolument contemporaine, puisqu'on raconte n'importe quoi avec toutes les archives ? Enfin, je veux dire, là, on est dans le récit de l'histoire permanent avec des archives dont on manipule totalement le sens et le truc. Et là, j'ai l'impression de voir tout un processus où le fait de faire une image... Alors, renonçant à cet acte présent, j'ai ma caméra, j'y vais, et quelque chose du risque par rapport aux images... et plus tellement par rapport aux gens, mais par rapport au fait de produire une image se joue. Bon, c'est vrai que chez nous, pas sûr qu'il se joue vraiment, parce que c'est d'une banalité totale, parce que c'est très difficile de remettre du réflexif à l'intérieur de l'acte de filmer comme ça. En revanche, faire lever les images, là, ce que je vois dans les images et dans la manière que tu as de nous les amener, de nous les montrer, c'est un film, un processus d'apparition du visible qui se fait petit à petit. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait besoin d'interroger ces images-là pour voir quel serait le processus à l'œuvre dans le film qui est à venir. Alors après, peut-être que ça viendra pas, mais en tout cas, ça se précise, quoi. Vraiment, pour moi, on n'est pas loin d'un film qui se fait. Il faut voir cette espèce de figure mythologique de cette femme avec cette qui est évidemment très certainement pas posée, mais qui est quand même totalement cadré et qui est une projection d'une image sur une situation réelle, mais qui a impliqué un temps de traversée d'espace, d'expérience, qui fait qu'il faut reprendre peut-être du temps pour faire des images, pour arriver à reproblématiser le fait d'en faire, quoi. Enfin, je ne sais pas si je suis très clair, mais... Parce que le problème qu'on a avec les archives aujourd'hui, c'est qu'elles se posent comme une évidence historique sans que jamais les conditions de production de cette archive ne soient bien claires, ni sans jamais que les conditions de production de discours à partir de ces archives ne soient bien claires non plus. Vous regardez le prime time sur France 2, France 3, machin, ce n'est que ça, quoi. Je veux dire...
Hicham Benoud, c'est pour la reverser à la question de l'archive, finalement, tu as raison. Plutôt pour montrer que dans une production au présent, de ce qui sera archive, il y avait un lointain, parce qu'en plus, avec la salle de classe, c'était le Maroc, et c'est du noir et blanc avec un argentique. Donc, vu ici, il y avait déjà un lointain. Il y avait quelque chose qui était contemporain, mais d'autre part, lui, il a trouvé nécessaire de remettre en jeu la tension du régime de production des images, qui est parfois perdue dans de l'image d'archive. On ne sait pas, objectivement, comment c'est fait, comme tu dis, par qui, comment c'est fait. On ne sait pas... Ouais, non, mais voilà, on ne sait pas au sens qu'on est. Voilà, on est justement, et là, je crois que le geste du travail, il est justement ce dont tu parles, c'est-à-dire qu'en gros, on ne sait pas au sens d'une information comme celle qui est donnée par Hicham à un moment donné, très pragmatique, mais on sent, et moi je trouvais, et c'était aussi pour ça que cet exemple je l'ai pris, la salle de classe, moi j'avais acheté des tirages, j'ai acheté le livre, et je trouvais ça ultra angoissant. Pour moi, je ne décrochais pas du fait que c'était une série qui était ultra forte, mais alors ultra angoissant. Les regards des gamins étaient vraiment... qui venaient complètement d'ailleurs. Moi, je dis, non, on ne regarde pas comme ça. Quoi. Tu vois, il y a un truc, c'est... Ils regardent droit dans la caméra, droit dans les yeux de l'appareil, et ce n'est pas le portrait qui te... Si tu regardes droit dans les yeux de qui te photographie, un truc très, très direct, et c'était ultra tendu. Et moi, voir des gens qui trouvaient ça sympa, après, c'est une bonne idée. Je me dis, mais il ne regarde pas l'image, alors. Parce que l'image, en fait, elle disait déjà quelque chose qui était quand même archi-violent, très tendu. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ces regards? Qu'est-ce que c'est que ces présences? Qu'est-ce que c'est que ce corps tel qu'il était tenu? Tu vois, dans le genre, vous tenez droit, et tu vois, les... comme on peut en voir dans les photos anciennes, une manière de se tenir droit qui rappelle qu'on devait se tenir, quoi. Il n'y avait pas juste photographie, quoi. Il y a une manière. Et donc, il y a quelque chose qui est dans l'image, en réalité, potentiellement, si on met au travail. Et qu'on, à côté duquel on passe parce que justement on leur fait dire beaucoup d'autres choses, quoi. Mais il y a une enquête possible dont tu parles aussi dans l'image. On parlait de l'enquête l'archiviste au sein du corpus d'image, puis après dans l'image comme elle-même scène, comme tu disais aussi, l'espèce de scène du crime, quoi. Tu vois, l'espèce d'endroit où un truc s'est passé et qu'il va falloir faire une enquête pour.
Et à chaque fois, ce qui est photographié, évidemment, les moyens de conditions de production de l'image. Et je trouve qu'il y a un truc absolument dément entre le foyer Sonacotra en couleur et la sortie des usines Lumière. Enfin, il y a une sorte d'histoire fondamentale, comme ça, des puissants qui vont utiliser la représentation ouvrière pour servir leur propre production. Bon, les frères Lumière font ça. 40 ans plus tard, là, il y a un degré dans le cynisme qui est supérieur. On ne met pas tous les ouvriers dans un geste moins, ils sont plus posés avec leur truc, mais de toute façon, c'est pour rentrer dans la relation intime. Enfin bon. Il y a une histoire type de la production des images liées, et là, toutes les composantes formelles de l'image donnent des éléments de réponse, mais là, on a besoin aussi de l'histoire de la technique, de l'histoire de la. Et puis, il y a l'utilisation, la fonction des images. Je veux dire par là que, par exemple, les photographies bourgeoises prises en Estonie, on peut s'étonner au regard de ce qu'on connaît, nous, de la photographie bourgeoise, et qu'un personnage individuel, familial, la tante Berthe, se retrouve sur une carte postale. Or, quand on voit comment la production politique antisémite et anti-bolchévique a fabriqué du réalisme à partir des archives privées, c'est-à-dire qu'en fait, se faire prendre en photo, c'était se faire prendre en photo comme une famille de... mais c'était aussi se faire prendre comme un acteur national. C'est-à-dire que là, du coup, il y avait une sorte de choses auxquelles on ne réfléchit pas. Et il y a des carnets qui sont montés à partir d'images quand on les voit, on se dit, mais c'est pas possible, c'est des archives personnelles. En fait, ce sont des archives à la fois personnelles et étatiques. C'est-à-dire que la puissance de l'appareil d'enregistrement là-bas, qui se jouait dans une mise en scène bourgeoise, fabriquait aussi un discours nationaliste qui était enregistré. Et ça, c'est proprement lié à l'histoire politique de l'Estonie. Alors que ce sont les mêmes images qui se produisent... d'un pays à un autre, quoi. Voilà, c'est ça qui est... Voilà.
Quand tu parles d'utilisation à l'échelle étatique, de quelqu'un,
en fait. La propagande de base. C'est-à-dire qu'il y a une diffusion, alors plus tardive, bien entendu, mais il y a une propagande très, très forte pour... alors, en plus, les pays baltes, ils sont compliqués, parce qu'ils enfilent la perle de l'antisémitisme avec l'anti-bolchévique. Donc, on retrouve des choses qu'on connaît, nous, qui ont été produites en France... de la représentation du juif, voilà, dans tout ça. Et il faut l'enfiler en plus avec les bolcheviks qui ne sont pas forcément juifs, mais qui ont soutenu le complot mondial et qui ont détruit. Donc, enfin, je dis ça parce que, comme hasard pur, hier je consultais un ouvrage de ce type qui date de 1941, mais qui ne repose. Donc, enfin, on est assez étonné parce que quand on voit ça, les images sont fragiles, quoi. C'est pas du tout le mode de production de propagande comme l'Allemagne en a produit, c'est-à-dire avec une énorme maîtrise, avec un investissement formel propre à l'image de propagande. C'est une histoire de montage. C'est-à-dire qu'on voit ces photos-là. Ces photos-là censées représenter la bonne bourgeoise, la bonne famille, le bon... Voilà.
Fabriqué, ouais, c'est une récupération de l'image par l'État. Ça que je
sais. C'est les deux, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la production d'images de portraits bourgeois de pose servait le discours national. C'est-à-dire qu'ils les ont fabriqués pour produire autre chose. Donc, la notabilité que crée la mise en scène dans la pose servait bien d'autres fonctions.
Certes, mais après, l'image en elle-même, elle restait dans un cadre intimiste où elle était servie, elle servait justement...
Non, elle servait, oui, bien sûr, elle était...
C'est ça que je pensais que tu disais, c'était une récupération soit après coup, soit...
Mais c'est forcément...
Par un contexte social, par quelque chose qui se...
Mais dans l'histoire, c'est une récupération après coup. C'est-à-dire que ce qui était la banalité de la représentation classique, parce que tu disais tout à l'heure avoir trouvé des gens qui semblaient être de classe plus moyenne ou défavorisée. Bon, n'oublions pas que c'est aussi la pratique de la photographie qui n'était pas donnée à tout le monde. Et donc, il y a une sorte de... On va se faire photographier, tu vois, pour... voilà, c'est ça, en fait. Mais se faire photographier à une époque donnée dans l'histoire des pays baltes, c'est devenir aussi le témoin. Enfin, tu vois, voilà. C'est pour ça que je trouve aussi, pardon, juste pour terminer, que la modalité d'exposition, juste pour cette histoire de poser la question du risque des images, je trouve très intéressant le journal, enfin la proposition du journal comme ça, avec un tirage qui est un tirage proche du, enfin qui n'est pas un tirage photographique, c'est-à-dire que toutes ces images qui sont très très belles, ne pas prendre le risque non plus d'en faire des objets photographiques fascinants, c'est-à-dire qu'ils restent d'abord des documents de l'histoire. Parce qu'on imagine très bien une exposition 4x4, super tirage, et là, d'un coup, une obscénité à l'œuvre dans les modalités d'exposition qui fait qu'on peut en oublier l'histoire. Ah, ça, je trouve ça très fort.
Après, par ailleurs, il y a des... Moi, je pense vraiment que le support, il peut y avoir une force poétique, justement, par le, tu vois, une charge supplémentaire qui ne bascule pas à un moment donné d'une complaisance, mais une utilisation par le support, quoi. Et ça, c'est... Ouais, c'est...
Mais c'est un peu. Ma question était dans ce sens-là. La question des documents trouvés suppose encore leur mode de reproduction, de prélèvement. Alors, effectivement, la solution du journal en est une. La caméra devant la photographie, c'est une entreprise que tu. Comment tu fais ça ? Le bon titre ?
Ouais, bah, par ailleurs, il y a quelque chose dont je n'ai pas du tout parlé, mais l'endroit où je travaille pour faire les films, c'est un endroit qui est spécialisé sur le. Enfin, qui donne la possibilité en fait, de faire des films, notamment en pellicule. Donc, se pose cette question-là aussi, puisque du coup, toute cette époque d'image, elle est produite en argentique. Et aujourd'hui, voilà, un certain nombre de gens continuent à travailler avec ces supports-là. Donc. Le film sera en partie tourné en argentique, et donc notamment, mais ça c'est un truc de plaisir des outils, et donc là-bas il y a un bon titre effectivement mécanique, enfin programmable, comme pendant des années les documentaires ont existé avec du refilmage de photographies, et c'est a priori avec cette machine-là, parce que ça m'intéresse qu'on va essayer d'aller explorer comme ça ces images, mais encore une fois, ce lot d'images, c'est vraiment quelques chapitres du film, quoi. Et juste par rapport, je voulais dire sur la question
juste pourquoi en fait, ce que tu dis, ça semble être évident pour toi. Bon, moi, je vois le plaisir du bon titre et de l'outil argentique, mais est-ce que ça fait sens aussi pour toi de te dire, j'utilise un véhicule spatio-temporel pour, c'est comme un espèce de prenant le film comme un type de véhicule, je prends ce véhicule-là pour... Pourquoi, en fait
Pourquoi, ce support-là?
Oui, pourquoi ouais. Le bon titrage pellicule
Qu'est-ce qu'il dira? Bon, ça, c'est juste parce qu'en fait, ça ne rend pas du tout la même chose que de refilmer avec une caméra vidéo en bougeant, ou avec une caméra pellicule en bougeant, ou avec un effet de montage qui fait glisser l'image dans le... Enfin, voilà, ça, c'est... Après, ça, je crois pas que je le disais comme ça, mais ça a pas. Non, je sais pas si c'est un très grand intérêt.
Non, parce que dans l'outil là, à l'endroit où on est aujourd'hui et du document, la manière dont on le saisit, on va dire toutes les saisies, presque l'aventure de la découverte. Moi, je trouve qu'effectivement, quand des documents sont exploités dans du documentaire télévisuel, l'un des problèmes, c'est ça peut paraître évident, mais en fait, le geste de prendre celle-ci plutôt que celle-ci, il n'est pas actif dans le film, quoi. Moi, du coup, quand on cherche dans l'archive, on a aussi des rencontres au sens fulgurantes ou des espèces de rapprochements, comme tu dis, le fameux dossier Rome. D'un coup, ça ne devait pas être là, mais c'est là. Et donc, il y a ça, quelque part, comme spectateur, qu'on a envie d'avoir. Parce que quelque part, le document, il est bougé de son statut juste d'élément historique. Il n'est pas forcément emmené, comme Julien parlait, dans une espèce d'esthétisation, mais il est entre les deux dans un rapport quand même de rencontre. Parce qu'il y a un choc émotionnel de voir l'image, de voir surgir une info qu'on ne savait pas, mais aussi une forme qu'on ne connaissait pas. Et donc je posais la question de savoir, est-ce que le bandit, c'est une manière de rejouer leur premier régime d'apparition, ou est-ce que effectivement, pour dire ça autrement, est-ce que dans le film, tu imagines aussi mettre en jeu le fait que toi, tu as cherché ces images dans les archives, ou alors elles sont là.
Non, c'est pour ça en fait que je racontais les contextes de production de ces images-là et en quoi ça se relie aux histoires du film et du territoire, parce que c'est vraiment ce nœud-là qui m'intéresse. Donc effectivement, le récit de comment ces images ont été produites, voire peut-être trouvées, effectivement sera à l'heure.
Parce que l'histoire de la benne, par exemple, que tu racontes pour la Courneuve, je trouve que c'est quand même extrêmement... C'est un régime d'apparition de l'image qui me semble extrêmement signifiant. L'image est intéressante, mais le fait de se dire qu'une institution met à la benne une histoire parce qu'elle passe à autre chose et l'autre le retrouve à la benne, je trouve que ça dit autant que l'image, que ce que l'image nous raconte. C'est une espèce de sous-texte qui densifie beaucoup ce que l'image a à dire.
Ouais. Tu fais un film en pellicule, aujourd'hui à La Courneuve, et tu poses le spectateur dans une espèce d'ambiguïté complexe, mais qui est tout à fait liée à ce que je disais tout à l'heure, qui est notre rapport aux images, qui évidemment intervient dans notre rapport à ce que l'image montre, qui fait qu'on n'arrive plus à savoir à quelle époque on est, quoi. Et tu joues de ça, la question en jeu, elle est bien là, en fait. Bah. À quel moment on va arriver à sortir d'une espèce de séduction de l'image en tant que telle, pour arriver à retoucher et repointer le temps politique et la situation politique enregistrée dans ces images.
C'est une question assez délicate, mais donc pour être concret, effectivement, ce petit film-là, c'est essentiellement une topographie de la destruction des bidonvilles qui étaient à La Courneuve sur l'année où je travaillais là-bas, filmé en pellicule. Et donc, mais en fait, parce que je filmais en pellicule, que le lieu où j'étais en résidence, c'était l'objet du travail. Et parce que par ailleurs je filme souvent en noir et blanc, et en fait bien évidemment j'en avais conscience, mais pas à ce point là une fois que le film a commencé à se monter, y avait effectivement ce trouble de voir des images de bidonvilles, et du coup en fait pour moi c'était évident, parce que tous ces bidonvilles ils sont coincés sur des bords de bretelles d'autoroutes, de routes, de ronds-points, donc il y a en permanence des bagnoles. Donc si on regarde deux secondes l'image, on voit bien que les bagnoles c'est pas des bagnoles des années 60. Pour autant, en fait, beaucoup de gens qui ont vu ce film, effectivement, ont dit « mais c'est marrant, c'est très troublant, on est à quelle époque, on ne sait pas, mais c'est des images d'archives, mais c'est toi qui les as fait, c'est quoi ?» Et donc, notamment, ce trouble-là est intéressant. Et moi, il m'intéresse, mais il me pose aussi beaucoup de questions, parce que dans ce petit film-là, c'est notamment envoyer le présent dans un statut de rappel du passé. Et donc, c'est quoi la mécanique inverse qui, a priori, est quand même aussi autrement nécessaire ? Surtout quand on travaille avec ces supports-là, qui jour après jour, je veux dire, ne font que renvoyer au passé, quoi. Moi, j'ai pu le voir, je sais pas, en faisant des ateliers avec des jeunes en Super 8. Sur le principe de la fabrication, c'est très chouette. Une fois qu'ils voient les images, ils disent « mais c'est quoi ton truc, quoi ? C'est quoi, tu veux faire des films comme en 1900 où on marche en accéléré ?» C'est complètement naze, quoi.
La question que je te posais sur le banc titre, elle est dans le même sens que ça. C'est-à-dire qu'en gros, à un moment donné, il y a un choix, aussi simple soit-il, il y a une délicatesse du choix qui va dire quelque chose... presque de manière autonome à ce qu'on veut dire. On en parlait avec Vincent tout à l'heure aussi. C'est la rigueur jusqu'à où va la question de la maîtrise du sens qu'on veut induire, et où va l'endroit du trouble, et jusqu'à quand on accepte de ne pas maîtriser quelque chose. Qu'est-ce qu'on... Oui, effectivement. Et est-ce que quelque part, la chose te revient en contre-feu ? C'est-à-dire que quelque part, il y a un geste qui va signifier, conceptuellement, pour le coup, l'inverse de ce que tu voudrais mettre en jeu. Par exemple, une actualité des bidonvilles qui renvoie en réalité à des images du passé est peut-être pas très réussi comme coup.
Ah voilà, du coup, c'est pas que ça. Mais c'est vrai que les gens qui l'ont interprété comme ça, je me dis, ah la merde, c'est vraiment... ça va pas, mais...
C'est la manière la plus tranquille de l'interpréter, là, parce que manifestement, quelque chose du contemporain se joue dans ces images-là. Donc ça fout plutôt le trouble sur le fait de se dire, mais est-ce que la technique... Est-ce que toutes ces techniques apparaissantes qui se tournent les unes les autres derrière en réinventant des trucs ne servent pas justement à désinguer les liens historiques, quoi, entre l'époque que nous vivons maintenant, en fait. Parce que est-ce qu'on peut mettre, tu mets dans le même bain, disons, mais comme un bain au sens technique du terme, le bain révélateur de l'image, des images des années 60 et des images contemporaines, tu vois. Et ils sont pris dans le même bain de brouillonnement, de poussière, tout ça. Ouh là là, il y a une évidence politique qui devient une évidence formelle. Alors je peux me protéger sur le fait de dire non, ça va, c'est des images du passé, sauf que je reconnais bien que... le fait de... Ça participe d'une espèce de distance qui est justement la séduction esthétique. Parce que dire non, ces images, je suis protégé par le fait qu'elles ressemblent à des images des années 60.
En tout cas,
mais à partir du moment où tu as enregistré quelque chose qui parle du contemporain, soit c'est bien la distance. Les autres ne font plus archive, quoi, du coup, on s'en protège pas, quoi. Quand on voit... c'est là qu'il y a un enjeu que je trouve intéressant.
Justement, c'est la zone de friction. C'est quand il y a quelque chose qui coince, qui fait qu'à un moment donné, on se pose la question. Et on engage forcément une discussion avec un autre. Et à un moment donné, ça crée un débat et ça actualise quelque chose qui est en train de se passer. Et on parlait tout à l'heure justement des zones où ça accroche. Et je pense que c'est qu'on travaille sur certains sujets, il faut donner qu'il y ait une certaine granulométrie, quelque chose qui, à un moment donné, on emmène, ça glisse, ah, c'est agréable, c'est confortable, en plus, c'est séduisant, etc. Et puis, à un moment donné, non, je veux pas. Et je pense que c'est très important, enfin, en tout cas, qu'on traite de sujets comme ça, qu'il y a un moment, ou alors, à l'inverse, qu'il y ait quelque chose qui nous paraisse totalement inoffensif, et puis deux, trois, quatre jours après, quand tu en commences à en discuter, tu réalises qu'en fait, t'es un con, quoi. Parce que tu l'as pas vu et qu'en fait, c'était sous tes yeux, quoi. Et là, l'effet monumental, réussir à faire ça, c'est encore mieux. Le faire, que ça agisse 3-4 jours après, il y a certains auteurs qui arrivent à le faire magistralement, mais...
J'ai une fonction de policier aujourd'hui, mais on n'est pas rigueur, hein, c'est pas tous les jours. Mais l'heure tourne, on est un petit peu décalé, mais c'est un plaisir en tout cas de vous écouter. Donc on a ouvert un tout petit bout et du film à venir de Jérémy, dont on se doute que c'est une sacrée affaire, et une petite partie du rapport aux images de Vincent. Bon, si on concerne Vincent, on aura d'autres occurrences au sein de l'exposition. Pour continuer, parce que, comme je le disais tout à l'heure, on va continuer avec un autre discutant qui est Fabrizio Terranova, qui va discuter en fait de la question et qui a quelque part la poursuite de ce qu'on parle aujourd'hui, c'est la possibilité de spéculer et donc de fabriquer à travers du matériau documentaire d'autres récits, en s'appuyant aussi sur la pensée de Donna Haraway, dont il réalise donc on peut dire une forme de portrait, on va dire, en tout cas, le premier film sur Donna Haraway qui va sortir au mois de mai et qui, elle, dit nous avons besoin de nouveaux récits et de ne pas répéter les anciens récits mortifères. Donc, lui s'intéresse à comment on peut peut-être emmener des documents à de nouveaux récits. Ce sera dans une quinzaine de jours et on retrouvera aussi, comme a dit Vincent, au mois de mai, Françoise Vergès. On ira un peu plus loin sur les questions des graines et des petites plantes. Voilà, on va vous proposer de boire et de manger quelque chose dehors le temps qu'on réinstalle pour la projection de Jérémy dans, allez, 10 minutes. À tout de suite.